Moi, ce que je dis toujours, c'est que les jeunes, ils devraient pas y en avoir. Et puis, c'est tout.
Hey, je veux dire à tous nos amis qui partent bientôt en vacances de ne pas oublier de mettre dans leur bagage une brosse à dents neuve.
Vive la cuisinière à tout continu.
Terminons ce tour d'horizon par une note réconfortante.
Je vous demande de vous arrêter.
Eh oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Avec votre équipage habituel, Jeanne Padawan et Olivier, Jack Marshall, l'homme à tout faire, Mafalda la voyante, Pierre Filantia, notre maître nageur, Vincent Turban, mélomane invétéré, et bien sûr, à la barre, l'étrange Captain Nifl. Hey,
bonjour à tous et bienvenue sur Radio Libertaire. Si vous nous rejoignez, il est 15h et vous êtes à bord de notre paquebot. Dépêchez-vous de rester jeune. Nous sommes le 11 mars, il fait beau, il fait chaud comme d'habitude. Aujourd'hui, nous quittons Rouen et nous dirigeons vers le 16e arrondissement de Paris. Et oui, plus précisément, Delphine, le pont Mirabeau.
Waouh !
Je suis avec Delphine Keravec, donc Olivier, qu'on embrasse, n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il est parti faire un tour de kayak.
Salut Olivier !
Bonjour Delphine ! Jack Marshall, mon cher Jack.
Bah, tout va bien.
Toujours, bah, ouais, comme d'habitude, hein, finalement. Ouais. Vincent Turban est parmi nous également. Salut Vincent.
Bonjour, ça va bien.
Très bien. On aura le post-scriptum aussi de notre voyante Mafalda. On embrasse Jean-Pierre Calfon qui parraine cette émission. Donc des bisous Jean-Pierre. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Stan Cuesta. Bonjour Stan.
Bonjour.
Auteur, journaliste, musicien, on va en parler. Tu vas nous parler de ton recueil de nouvelles qui s'appelle La musique a gâché ma vie, qui est sorti récemment. Et je suis également avec Samuel. Salut Samuel. Et Morgane qui arrive aussi en paddle dans pas longtemps, du groupe punk Cold Sea. On en parle tout à l'heure. Jack, tu ouvres le bal comme d'habitude. Tu nous parles d'un film.
Ah bon, je commence tout de suite.
Attends, oui.
À la seconde.
Jack, il était pas au courant.
Non.
T'as mis ta crème solaire ?
Oui.
Bon bah alors vas-y, t'es prêt ?
Le pont Mirabeau.
Tu nous parles d'un film qui s'appelle, c'est une comédie, qui s'appelle Dans la cuisine des Nguyen.
Oui, donc c'est un film sur le Vietnam.
Et en fait, aujourd'hui, les 50 ans de la fin...
de la guerre du Vietnam, d'ailleurs, oui. Donc j'y vais ?
T'écoute.
D'accord. Edith Piaf voyait la vie en rose. Alors Yvonne Nguyen, de son vrai Clotilde Chevalier, le nom de l'actrice, la voit en comédie musicale. Le jour, elle est la reine des nems et gérie du pâté impérial pour un supermarché. Elle rêve d'une carrière dans la comédie musicale. Au-dessus du restaurant de sa mère, elle rêve d'un rôle fait pour elle. Au-delà des paillettes, le film fait la peinture touchante d'une relation mère-fille, abîmée par un ressentiment tenace. Donc la mère, c'est la mère qui parle, dit « J'ai survécu à la guerre et à la dysenterie. Je survivrai à une fille ingrate, à scène, la génétrice, persuadée. »
Et qui refuse que sa fille fasse de la comédie musicale, ouais, qu'elle lâche la tradition. Ouais.
Que sa progéniture a honte de son accent et de tout ce qu'il charrie d'histoire et de culture. Penchées sur les fourneaux, les deux filles renouent dans un mélange de français, de vietnamien et d'un langage universel qui se passe de mots. C'est le premier film de l'acteur scénariste Stéphane Lee Kyung, donc c'est vietnamien. Une délectable fantaisie sur le déterminisme ethnique.
Merci Jack, on écoute, tu nous as préparé je crois un extrait musical, oui. Justement.
Thank you.
donc la comédie musicale, en fait. C'est une comédie, mais c'est aussi une comédie
oui, un peu,
et des chansons.
Qu'elle aurait voulu être...
Oui, elle a le rêve, la jeune...
Elle a été rattrapée.
Dans la cuisine des Nguyen, donc ouais. À voir...
Cinéma.
Merci.
Ah ouais, oui, oui.
Merci beaucoup, Jack. Stan Cuesta, donc après être passé par une vie de chanteur et musicien, avoir sorti quand même un album en 94 qui s'appelle Le Voyage intérieur, tu deviens journaliste musical à Rock and Folk, Rolling Stone, Télérama. Ce qui nous occupera plus particulièrement aujourd'hui, c'est ta facette d'auteur. Tu diriges aussi une collection que tu as créée qui s'appelle Les Indociles. Tu as écrit beaucoup de biographies, les Beatles, Jimi Hendrix, les Rolling Stones, Jeff Buckley, Nirvana et j'en passe. Des biographies, Piaf, Ferré. Et tu as sorti récemment un recueil de nouvelles qui s'appelle donc « La musique a gâché ma vie » qui est sorti le 8 novembre, titre intriguant.
Alors, le fils du torero. Je ne connais pas mon père, il était espagnol. Ma mère française était partie vivre en Espagne, sous Franco. Je suis né à Madrid. Elle s'est enfuie avec moi quand j'avais 1 an. Son père est venu nous chercher en voiture et on a passé la douane en fraude. Une sorte d'enlèvement. J'ai grandi à Créteil, chez mes grands-parents. Ma mère ne me parlait jamais de mon père, de l'Espagne, de rien en fait. Elle avait tiré un trait, essayé d'oublier. Et puis, elle a rencontré mon beau-père, que j'appelais papa. En banlieue, ma vie n'était pas marrante, ma famille n'était pas marrante. Pourtant, il semblait exister quelque part un ailleurs. Plein de soleil, de guitare, de cheveux longs, d'amour et de musique. Un sacré cliché, mais qui me faisait rêver, qui me faisait vivre. J'avais une moitié de sang espagnol, je le sentais bouillir en moi, dès qu'un enchaînement d'accords ressemblait à du flamenco. Comme quand j'ai entendu cette chanson, dans sa guitare espagnole.
Les belles étrangères qui vont au corrida et qui se pamedaissent devant la muleta.
Ferra. Toujours Ferra, qui parlait de ma mère. Encore une fois, en Espagne, la belle étrangère. Je ne comprenais pas tout, bien sûr. Il y avait les mots que je n'avais jamais entendus. Mais un couplet m'a mis la puce à l'oreille.
Les belles étrangères se jurent à jamais de chasser hors de Gnaise de leurs rêves secrets.
Je n'avais jamais entendu parler d'Ornaguez. Je ne saisissais pas tellement son nom. Ce que je comprenais très bien, par contre, c'est que ma mère essayait de le chasser de ses rêves. J'étais le fils du torero. Alors Stan, tu es le fils du torero?
Ben, faut lire la nouvelle jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe finalement.
La musique a gâché ma vie, c'est ton premier recueil de nouvelles. Certaines sont inédites, d'autres étaient sorties déjà dans des revues. Il y est question de Paris, du 16e arrondissement précisément où nous nous rendons, des années 70, de musique, de genres musicaux, de concerts et de mode qu'on traverse un peu comme on traverse la vie du narrateur. Après avoir été biographe, est-ce que c'est ta biographie que tu as voulu écrire ? Pourquoi ce passage à la première personne ?
En fait, j'ai toujours écrit à la première personne. Et je viens du rock et folk historique de la fin du XXe siècle où on pouvait encore s'exprimer en racontant sa vie un petit peu. C'est hérité du nouveau journalisme de Rolling Stone des années 60-70 où le journaliste se mettait au centre de l'action, etc. Et à la Hunter Thompson, par exemple, quoi. Et en fait, il y a eu des débordements avec ça, et ça a commencé à devenir un petit peu inintéressant. Et quand Philippe Manœuvre a repris Rock et Folk, tout d'un coup, il a instauré l'abandon du jeu. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit de parler à la première personne. Alors qu'il en était un des grands champions, c'est ça qui était drôle, quoi.
Il fallait garder l'objectivité.
Il disait l'époque a changé, d'ailleurs c'est passé dans tous les journaux, hein, dans tous les magazines. Ce qui fait que tout le monde triche en disant « on ». En faisant des trucs, nous arrivons, alors que le mec est tout seul.
Enfin, voilà.
C'est très bizarre. Mais en tout cas, j'ai été très frustré par cet abandon du jeu, parce que j'aimais bien raconter le contexte d'une interview où j'allais rencontrer un artiste, etc., le suivre en tournée, donc participer à la vie du truc. Donc j'ai continué à faire ça, mais pour moi, puisque c'était plus possible de le faire dans Rock & Folk ou dans les autres magazines d'ailleurs, parce que Rolling Stone c'est pareil. Et mais sans les faire éditer spécialement. Et voilà. Et en fait, Aujourd'hui, bon, peut-être je suis un peu long là, non, dans ce que je raconte. Aujourd'hui, je trouve que l'objectivité est fatigante parce qu'en fait, avec l'arrivée d'Internet, a énormément changé mon métier. C'est-à-dire que maintenant, il y a de l'information partout. En fait, quand, au début, avant Internet, le journaliste musical était le gars qui avait le savoir, qui racontait la vie des artistes, comment l'album avait été produit, machin, etc. Aujourd'hui, vous tapez sur Wikipédia, vous savez tout d'un coup, quoi. Donc, les journalistes ont une place à... Enfin, disons que ça pose un problème par rapport à ce métier-là. Et je pense qu'il faut, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais dans mes bouquins, réintroduire de la subjectivité. C'est la seule chose qui peut nous différencier de, justement, cette culture de Wikipédia et tout ça. Et donc, j'ai commencé, je ne l'ai pas fait dans les articles, puisqu'on ne le fait pas trop, mais dans mes bouquins, j'ai souvent écrit une préface assez longue qui racontait, notamment dans la discographie que j'ai faite des Beatles et de Jim Hendrix, j'ai écrit des longues préfaces où je raconte un peu ma vie, comment j'ai découvert l'artiste, etc. Et qui sont en fait des petites nouvelles. Donc j'ai continué là-dessus et voilà. Et j'ai participé, comme tu disais, à des recueils collectifs, des appels à texte, des concours de nouvelles. Même la première, c'était la nouvelle érotique. Donc c'était le prix de la nouvelle érotique du Diable Vauvert, qui est une maison d'édition avec qui je travaille par ailleurs pour faire des traductions de livres musicaux.
Et la patronne. C'était la première nouvelle que tu as écrite de ce recueil.
C'est Marion Mazurik, la patronne du Diable Vauvert, qui avait deux concours. J'ai fait les deux d'ailleurs, le prix de la nouvelle érotique et le prix Hemingway, qui est sur la corrida, d'où le fils de Torero. Elle me disait, il faut absolument que tu participes. J'y mets. J'y connais rien en corrida, quoi. J'ai jamais été. Je dis, mais c'est pas grave. Et effectivement, ça parle quasiment pas de corrida, là. Mm-hmm. Parce
que, non, bon, c'est tout ce qu'il y a autour, voilà. C'est l'imaginaire aussi.
Et c'est les mêmes contraintes également de.
Alors, pour le prix de la nouvelle érotique, c'était marrant. Il y avait une contrainte assez forte. Il y avait un sujet imposé et un dernier mot imposé, mais qui n'était donné qu'à minuit. C'était la nuit la plus longue. Et on commençait à l'écrire à minuit et il fallait la rendre avant 7 heures du matin. Voilà. Donc, j'aime bien les contraintes.
C'était quoi le dernier mot?
C'était ricochet.
Ricochet.
C'est pas évident à placer.
Non, ouais. Pas du tout.
Pour en venir, avant Manœuvre, il y avait des rédacteurs en chef de Légende, Jean Paringo sur
Paringo, c'est le rédacteur en chef historique.
Historique que j'ai connu. Mm-hmm. Et puis après, il y a eu.
Jacques Collin.
Collin, oui. Ouais. Et Paringo, et avant Paringo, c'était.
C'était le premier parce que c'était Philippe Coquelin qui a fondé le journal. Et il a tout de suite embauché Paringo, en fait. Ouais. Mais là, on parle de 1966.
Oui, oui.
J'y étais pas.
Non, mais je me souviens, c'était rue Chaptal.
Bien sûr, oui. Ouais. Ouais.
Et la question, c'est, avant de parler du titre du coup, qui m'a mis la puce à l'oreille, comme les paroles de Jean Ferrat, pourquoi parler de nouvelles?
Alors,
est-ce
en
que
fait...
c'est pas, parce qu'il y a le doute, est-ce autobiographique ou pas? On a l'impression vraiment que c'est un récit filé avec un personnage qui reste.
C'est presque un roman autobiographique parcellaire, disons, par morceau. Oui, c'était un détournement. En fait, je détourne toujours tout. Et l'éditeur Antidata ne fait que des nouvelles. C'est-à-dire que c'est un éditeur qui s'est concentré sur les nouvelles, il ne fait pas de romans, pas du tout, etc. Et en disant que la nouvelle est un peu le parent pauvre de la littérature en France, ce qui est vrai, et que donc lui ne va pas ajouter à la production de romans qui existe partout, et donc il se concentre sur les nouvelles. Et lui a dit, ça m'intéresse de publier. Donc en fait, c'est lui qui a dit que c'était des nouvelles pour que ça case, son cahier des charges, en fait, qu'il s'est fixé lui-même.
Toi, donc, tu les appellerais comment?
J'appellerai pas, moi. Ouais. En fait, c'est pas.
C'est un recueil de souvenirs, presque. On a l'impression que c'est des flashs de petits épisodes.
En plus, une nouvelle, c'est très difficile à définir, parce qu'il y a des gens qui ont des idées très précises sur la nouvelle, par exemple, qu'il faut une unité de temps ou une chute, surtout. Il y a des petites chutes.
Il y en a certains, on avait Rose Bonbon, il y a une chute.
Oui, c'est vrai.
On en parlera tout à l'heure.
Donc, on peut appeler ça des nouvelles, mais je crois que c'est même pas marqué sur le recueil, en fait. C'est dans peut-être le quatrième de coup, je sais pas.
Voilà. Alors, en fait, oui, la quatrième de couve. Mais ces textes à forte connotation autobiographique sont-ils vraiment des nouvelles? Va savoir, dirait Régent du Charme.
Ça, c'est. Donc, je ne sais pas qui est Régent du Charme, je suis sûr. Ça me fait plaisir de parler de lui. J'ai fait exprès de le mettre là pour qu'on me pose la question.
Justement.
Alors, c'est un auteur québécois formidable que j'adore, des années 60-70, qui est une sorte de génie et qui était. Qui a été très médiatisé parce qu'il refusait toute médiatisation. C'est-à-dire que comme Salinger, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais répondu aux journalistes, ou Thomas Pynchon sur la côte ouest aux États-Unis, sont des gens qui vivent dans le secret, dont on n'a pas de photo, sauf une photo de lui à 18 ans, et qui n'a jamais répondu à la presse, et qui n'a jamais donné aucune interview, et qui n'a jamais fait de photo. Bon, il est décédé il y a quelques années. Et il y a un gars qu'il connaissait très bien, c'est Robert Charlebois, pour qui il a fait plein de chansons. Et donc j'ai rencontré Charles Bois l'année dernière, c'était l'apothéose de ma carrière, où je lui ai fait parler de Régent Ducharme et de sa carrière à lui. Et j'ai fait un article pour Rock et Folk où il parlait de musique. D'ailleurs, il était ami avec Frank Zappa, enfin des trucs incroyables. Et un article pour Télérama où il parlait de Régent Ducharme. Voilà. Et j'essaye de faire connaître Régent Ducharme en France.
Et le Va Savoir ?
C'est le titre d'un de ses romans.
C'est le titre d'un
de son dernier roman.
Ouais. Donc on vous invite à lire Va Savoir de Régent Ducharme. On fait une petite pause musicale. Donc. Beaucoup de titres parcourent donc ces nouvelles ou ces souvenirs. On écoute Ma Môme de Jean Ferrat.
Comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Ma Môme, donc, de Jean Ferrat. Choix, donc, de Stan. Pourquoi ce... Il y en a beaucoup, beaucoup des morceaux qui parcourent le livre.
Oui, c'est vrai.
On pourrait même le lire en écoutant de la musique tout du long.
Mais Jean Ferrat... Enfin, moi, j'ai grandi enfant dans les années 60. Pour moi, les années 60, c'est Jean Ferrat, quoi. Voilà, mes parents écoutaient ça tout le temps. Bon, ils étaient vaguement communistes, il y a sûrement un rapport.
Mais, oui, sûrement, oui.
Pas tout, pas seulement. Bon, c'était des chansons. Et en plus, j'ai grandi à Créteil, donc j'ai identifié ma mère au personnage de ma môme, quoi. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Ce morceau passe dans un film de Godard. On voit Jean Ferrat mettre sa propre chanson dans le jukebox. Je me souviens plus lequel
c'est. Et le titre du film.
Je crois que c'est Vivre sa vie, mais je suis plus très sûr. Il y a Anna Karina au fond du café et Jean Ferrat arrive et il met sa chanson. Musique. C'est magnifique.
Incroyable. Ouais.
Voilà. Ouais.
Donc la musique a gâché ma vie. C'est autobiographique. Ça raconte une époque en fait à travers ce fil conducteur qui est la musique.
Ouais. Les chansons.
Les chansons tout. Les modes musicaux, etc., qui racontent un petit peu en transparence aussi l'histoire d'une époque, des événements politiques, des changements, une nouvelle qui. Les révoltes dans les lycées, etc., mm-hmm. Les occupations, les groupes qui viennent jouer un peu à l'arrache et faire vibrer les murs. Pourquoi. Alors, la musique a toujours été au centre de ta vie, pourquoi cet angle-là de la musique qui raconte.
Ah, vraiment, c'est. Alors, quand j'étais petit, moi, je m'intéressais au football. La musique, c'était pas tellement mon truc. Et je suis arrivé en sixième, et c'est ce que tu décris. C'était les années 70, c'était les grèves très violentes de l'après 68. Il y a eu un mort à Boulogne-Billancourt, qui était Pierre Auvernet, en 72, qui avait été tué par un vigile. Enfin, c'était vraiment. C'était très, très dur. Les premières rentrées que je fais en sixième dans mon lycée très bourgeois du 16e, parce que j'avais déménagé dans le 16e, grève absolue, c'est-à-dire piquet de grève, les gars qui se tapent dessus, et à l'intérieur du lycée, la fête permanente, c'est-à-dire c'est Woodstock dans le 16e, quoi. Il y avait des groupes qui montaient dans le gymnase, et j'ai pris ça en pleine poire, et je me suis dit,
T'en parles beaucoup, en plus du 16e, ce quartier un peu chiant,
oui, parce
un
que
peu le...
il
se passe jamais rien, etc.
C'était un lycée d'anarchistes, bizarrement. C'est-à-dire, Jean-Baptiste Say, c'était un lycée où on mettait tous les rebuts de la bonne société. C'est-à-dire les gars qui n'arrivaient à rien et tout, il y avait un proviseur qui les prenait tous, je ne sais pas pourquoi, qui venaient tous Paris. Et donc il y a eu plein de groupes de rock qui sont sortis de ce lycée, en plein milieu du 16e, un très beau lycée, etc. Et moi, quand j'ai vu ça, tous ces mecs, ils avaient, bon, à l'époque, ils avaient les cheveux incroyablement longs, des barbes, c'était complètement le contraire de ce qu'il y avait rue d'Auteuil, 50 mètres plus loin, avec les bourgeoises, etc. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire quand je serai grand, révolutionnaire, musicien, quoi. Voilà. C'était trop beau. Et donc, ça, après, je suis tombé sur un prof de musique fabuleux, dont je parle beaucoup dans ce recueil aussi. Et c'était parti, quoi. C'était la musique a remplacé le football, c'était fini, quoi. J'étais perdu.
Je pense que tu es une des seules personnes, au moins autour de cette table, qui a eu un prof de musique. Enfin, je sais pas si...
Ah oui.
On a... Bonjour Morgane, d'ailleurs, bienvenue.
Bonjour.
Débarqué en paddle, mais je vois que tu as réussi à arriver jusqu'à nous.
Oui.
Non, quelqu'un a un souvenir. Moi, j'ai été traumatisée par mon prof de musique et par les instruments, on en parlera après, le fameux
Futabec,
mais qui a disparu, mais j'ai connu quand même
qui
Vincent.
A disparu.
On fait plus de... Alors moi j'ai fait les dernières années, je pense,
moi,
de flûte.
Pas fait, moi, de flûte avec,
mais ah bah voilà, donc ouais. On doit avoir quelques années
avec
regard à peine. Et c'est vrai que c'était un instrument terrible. Ouais. Et un prof de musique, oui, j'ai un souvenir de Mademoiselle Binaire ou Ternaire sur un morceau que je ne connais. Alors là, premier rang. Et au pif, je fais plouf et je dis bah ternaire, qui est d'accord avec votre camarade? Et je me retourne, et là il n'y a pas un doigt qui est levé. Et mon prof, qui je me retourne à nouveau devant lui, regard noir. Et ça a duré 3 ans que j'ai eu le même prof de musique. Enfin bref, donc...
Ouais, non, nous c'était un prof qui...
Non, excusez-moi, moi, par contre moi j'ai souvenir d'un bon prof.
De musique?
Ah, ah bah, super deux, prof alors. De musique. Va savoir. C'était au collège Roland d'Orgelès, dans le 18e arrondissement, je me souviendrai toujours. Vincent Maestracci, qu'il s'appelait.
Oh,
un super prof.
Maestro.
Ouais, en plus, ouais. Et au lieu de nous faire jouer de la flûte à bec, parce que j'ai aussi connu cette époque-là, et ben, il nous faisait découvrir le répertoire pop-rock, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on découvrait ben, des morceaux des Beatles, des morceaux de Police, et Walking on the Moon et tout, qui étaient décortiqués. Et on apprenait toute la structure, on les chantait même et tout. Enfin, un prof formidable. Et je me souviens même qu'il y a une... je l'ai eu qu'une année. Et j'avais fait une petite démonstration, parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la musique d'un certain Jamiroquai et d'un instrument qu'il avait bien popularisé. C'était l'instrument des Australiens, le didgeridoo. Donc, j'ai été venu en cours de musique un jour avec mon didgeridoo.
Pas facile à transporter, un didgeridoo.
Non, c'est pas facile.
Ouais. Moins que la flûte à bec, c'est sûr.
On est bien d'accord.
C'est une très grosse flûte à bec. Mais donc, Stan, tu as eu un peu la même histoire que Vincent. T'en parles beaucoup de ce prof, parce qu'il vous faisait faire des trucs qui étaient... qui vous intéressait, en fait.
C'est lui qui m'a fait écouter Abbey Road, qui venait de sortir peu de temps avant. Voilà, et il nous faisait... Il disait d'apporter les disques, donc il fallait qu'on amène un disque et qu'on le passe et qu'on dise ce qu'on en pensait, pourquoi on l'aimait, etc. Et puis on pouvait venir avec ses guitares, c'est-à-dire que tous ceux qui jouaient de la guitare ou du piano ou autre chose venaient et on faisait...
Il y a le camarade héroïque qui jouait de la guitare.
Et puis il organisait des concerts dans l'amphithéâtre du lycée, il a fait venir Magma, Ange, tous les groupes de l'époque, voilà. Et nous, on faisait aussi ce qu'on appelait des boeufs, c'est-à-dire qu'on faisait tous des tas de groupes et on faisait un spectacle de fin d'année où tout le monde se produisait, voilà.
Pourquoi ce titre alors? Maintenant qu'on a parlé musique, pourquoi la musique a gâché ma vie? Parce que le livre raconte le contraire.
Oui, bien sûr.
Et alors avec cette petite quand même d'avoir toujours l'impression d'être en retard sur ce qui se passe, de courir après le temps, d'arriver trop tard.
Mais c'est pas pour ça. Non, c'est le titre d'une nouvelle qui parle vraiment de ça précisément. Après, le titre, je l'avais depuis une trentaine d'années. Donc c'est assez drôle parce que j'avais le titre mais j'avais pas écrit le bouquin. Et justement, on parlait de Bill Pritchard tout à l'heure. J'étais en studio avec lui pour enregistrer mon album dans les années 90. Je lui avais dit ça, il m'a dit c'est formidable, Music Run My Life. Je veux le traduire en anglais. Je lui ai dit mais il n'existe pas, donc j'attendrai. Et donc là, je lui ai envoyé 30 ans après un mail en disant ça y est, je l'ai fait. Il fallait être patient. Oui, non, la nouvelle qui parle de ça vient du fait que j'ai commencé à faire de la musique très jeune. J'ai fait des groupes 18, 20 ans, etc. Et puis j'ai dû tout arrêter parce que j'ai fait des études supérieures très chiantes et très longues pour faire plaisir à mes parents, enfin un truc qu'il faut jamais faire, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Et j'ai arrêté de faire de la musique
par là aussi, un peu au fond de la tête.
Et je suis devenu, c'était pour faire un métier très sérieux et très ennuyeux.
Que j'aurais dû être
ingénieur, donc.
Ingénieur. Voilà.
Que tu as j'ai commencé à faire, que, pas longtemps, mais j'ai travaillé un peu pour être bien sûr.
Un mentor aussi qui.
Oui, un mec qui m'a appris à ne rien faire, enfin à faire semblant de travailler. Donc j'ai vraiment glandé en faisant semblant de travailler et en gagnant très bien ma vie pendant quelques années. Et puis la passion de la musique a repris et donc j'ai quitté ça. Et donc, et j'ai pour faire de la musique professionnellement. Et donc, et je suis devenu très pauvre alors que j'étais très riche. Donc, c'est en ça que la musique a gâché ma vie. C'est-à-dire que si j'avais continué
une carrière
de jeune cadre dynamique qui m'aurait rendu très riche.
Bah, on va écouter quand même tes débuts parce que on a trouvé on lui fait un coucou d'ailleurs, un fan qui met donc certains de tes morceaux qui sont introuvables en ligne. Et donc, j'ai retrouvé une chanson qui s'appelle Où. C'était donc Où, avec un accent de ton premier album qui s'appelle Voyage intérieur, qui a été donc produit par Bill Pritchard dont tu parlais tout à l'heure. Alors déjà, pourquoi le faire disparaître des...
Alors au départ, c'était un peu une question... Enfin, disons que la maison de disques a fermé, donc ça a été très... C'était la Fnac Musique, une branche de la Fnac qui a fermé quand la Fnac a été rachetée. Donc j'ai pas eu trop de bol avec ça. L'album a eu une vie très chaotique, ensuite il a été repris par un label, mais qui finalement a fermé lui aussi. Et puis il y avait pendant très longtemps des questions de droit, c'est-à-dire qu'on savait pas à qui appartenait le disque. Finalement j'ai tout récupéré, je fais ce que je veux. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui il y a trop de musique, donc moi ce qui me plaît c'est d'être absent. Mais ça rejoint Régent du Charme, en fait. Voilà, c'est ça. Régent du Charme ou Thomas Pynchon. Je pense que le mystère, j'aime bien le mystère, quoi, voilà. Donc ces morceaux sont mystérieux. Bon, il y a quelques personnes qui me connaissent et qui mettent effectivement des morceaux sur YouTube. Au début, je les pistais en les harcelant, en disant « Fermez ça, je ne veux pas !» et tout. Là, j'en ai laissé passer un, visiblement.
Que j'ai retrouvé, mais après, avec acharnement, j'ai cherché, donc...
Après je...
Cet album, du coup, on continue sur... enregistré en 93, sorti en 94. Comment tu le vis aujourd'hui?
Ah, je le vis pas du tout. C'est-à-dire que je dois avoir 500 exemplaires dans mon garage que je donne parcimonieusement, comme un à toi aujourd'hui. Voilà.
Oui, j'ai un CD.
C'est comme une partie... oublié de mon passé, disons, enfin pas vraiment oublié parce que je pense que ça fera l'objet d'un prochain livre, mes aventures dans le monde de la musique en tant que musicien, en tant que chanteur, toutes mes expériences en studio, etc. Je pense que j'ai plein de choses à raconter qui sont assez chouettes, l'envers du décor un peu, ce qu'on raconte jamais vraiment. de quelqu'un qui est pas connu, donc c'est assez marrant parce que j'étais pas connu, j'ai pas eu le temps, voilà. Mais j'ai côtoyé tout le monde, tout le show business de la fin des années, de la fin du siècle dernier, début de ce siècle. Donc j'ai plein d'anecdotes et de choses assez marrantes et intéressantes à raconter là-dessus. Ouais. Donc ça, je pense que je vais le faire.
Dans le livre justement, bon, il y a la passion pour la musique, pas forcément justement en tant que. Alors il y a le rêve un peu d'en faire de la musique, mais tu arrêtes pas de dire que en fait t'étais pas t'étais génial dans aucun instrument, ni au chant, ni donc t'as un peu à chaque fois laissé ton, enfin tu t'es pas accroché à... mais t'as quand même fait donc cet album avant d'aller travailler comme on disait en tant qu'ingénieur. Donc là on passe déjà dans un autre, on est toujours dans le son mais on passe dans quelque chose de très technique avec cette nouvelle qui m'a beaucoup fait rire justement sur ce mentor et la technique de la veste et de la petite mallette.
Oui, c'était à l'EDF, donc je travaillais 6 mois là-bas à la direction des études et recherches, c'est-à-dire que je ne faisais rien et lui non plus. Et c'était un gars qui faisait rien depuis très très longtemps, il en a fait toute sa carrière et il était bon, très bien payé comme ingénieur de recherche. Et donc il passait sa vie à arriver en retard, à aller jouer au tennis, etc. Il m'a tout appris, c'est-à-dire que la technique de la veste, effectivement, c'est classique. Il était jamais là, mais il laissait son cartable ouvert sur sa table et sa veste sur le dossier de la chaise. Et tous les gens qui passaient, parce qu'ils avaient besoin de le voir, ils disaient, ah ben non, il doit être en réunion, il doit être ailleurs, etc. Lui, il était en train de jouer au tennis.
Veste, voilà. Toujours accroché sur...
Et donc après, quand j'ai bossé à Radio France, puisque j'ai fini ma carrière d'ingénieur à Radio France, ben, j'ai adapté cette technique de la veste qui était formidable, quoi. Ouais. Donc j'ai à peu près jamais travaillé.
C'est ça. Et à quel moment donc tu passes à l'étape d'après où là c'est d'écrire sur la musique, de devenir journaliste?
Alors j'ai un peu fondu les deux, c'est-à-dire qu'à la fin de l'époque où j'étais encore musicien, j'ai commencé à écrire. En fait c'est un coup de bol, j'ai toujours écrit sur la musique. Et j'ai rencontré Philippe Manœuvre amicalement, c'est-à-dire c'était pas du tout, il n'était pas du tout rédacteur-chef de Rock et Folk d'ailleurs, il faisait des films pour Canal+, et nos femmes étaient amies en fait, voilà. Et c'est vraiment le truc de copinage total qui énerve tout le monde en général quand je dis ça. Et il a été appelé à ce moment-là à reprendre Rock et Folk pour sauver Rock et Folk, ça allait vraiment pas bien. Et il a voulu mettre du sang neuf, faire venir des gens nouveaux. Et aussi pas mal de musiciens qui écrivaient. C'est-à-dire que c'est à la même époque que je suis rentré aussi, Jérôme Soligny, qui est un peu le même profil que moi, qui est un musicien et écrivain. Et voilà, on a fait partie de cette promotion des années 90 grâce à Philippe Manœuvre. Donc c'est lui qui, en fait, est tombé sur des trucs que j'avais écrits, j'ai dû le montrer. Il a dit, ah mais c'est super, viens avec moi, je reprends Rock et Folk, on va faire ça ensemble. Et donc c'est vraiment grâce à lui, sinon je ne l'aurais jamais fait, je pense.
Parce que après le premier journal que tu as écrit au collège, hein, je crois que c'était au collège.
Ah oui, hein, il y avait des choses effectivement.
Ça a été vraiment le démarrage. Tu as continué à écrire après.
J'écrivais pour moi. J'ai mes tiroirs remplis de choses, de notes, de journaux, de choses comme ça, mais que je montrais à personne. Et mais c'est vrai que j'ai lu Rock et Folk très jeune, beaucoup trop jeune d'ailleurs, je comprenais rien, c'était génial. Et ça m'a marqué même pour la littérature, pour le cinéma, tout ce que j'ai appris, je l'ai fait grâce aux journaux de musique et particulièrement Rock et Folk. Et j'avais plusieurs buts dans la vie, et c'est vrai que l'un c'était de faire un album, et l'autre c'était d'écrire un jour dans Rock et Folk. Donc quand je dis que je voulais pas le faire, en fait finalement, ça m'a...
T'avais réalisé tes rêves, voilà. Alors quand même, un album
et un livre.
Et le cinéma peut-être?
Alors non, ça
non, ça jamais.
J'ai vécu avec une réalisatrice et ça m'a définitivement dégoûté. De...
c'est une bonne recette.
C'est pas comment. On part en musique, donc toujours un choix de Stan Cuesta, c'est Epitaph de King Crimson dont tu parles.
Un chef-d'œuvre.
Longuement dans le livre.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune. Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Épitaphe, donc, King Crimson. Vincent, tu nous parlais d'un instrument.
Oui, en effet, je l'avais évoqué déjà une petite quinzaine de jours, ouais. Mais Jack aussi, d'ailleurs, le fameux mélotron qu'on entend bien justement sur ce morceau, ces nappes qui sont produites par cet instrument qui est l'ancêtre des échantillonneurs quand même. Hein. C'est l'ancêtre des échantillonneurs et la voix et la basse, c'est le grand Greg Lake qui a rejoint un an plus tard, ce fameux trio de rock progressif Emerson, Lake et Palmer.
Merci
on a
beaucoup.
Des spécialistes.
On se couchera moins bête, oui, c'est ça, exactement. Il est 15h38 et vous êtes toujours avec nous sur notre paquebot. Dépêchez-vous de rester jeune. Nous sommes avec Stan Cuesta qui nous parle donc de son recueil de nouvelles, La musique a gâché ma vie. Pourquoi ce titre, donc Épitaphe de King Crimson ? Il intervient dans une nouvelle dont tu parlais tout à l'heure. Qui est la nouvelle érotique.
Mm-hmm. Confusion, dont le titre Confusion est pris du morceau Confusion with Grima Epitaph. Ouais. Et d'ailleurs, oui, entre le moment où j'ai écrit j'allais dire cette chanson, tu vois, je me perds complètement moi-même. J'aurais bien aimé. Entre le moment où j'ai écrit cette nouvelle et le moment où elle a été publiée la première fois dans le recueil du Diable Vert, Greg Lake, le chanteur, est mort, et John Wetton aussi, qui était le deuxième chanteur, ils sont morts à peu de temps. Donc je leur ai dédié tous les deux la nouvelle, ce qui leur fait une belle jambe, tu me diras, mais bon, moi j'étais content de le faire, voilà. C'était un disque énorme, ce disque que tout le monde connaît, la pochette avec ce monstre violet là qui le King Crimson, donc le roi cramoisi qui ouvre la bouche et qui crie. C'est un disque qui a fait énormément de bruit à l'époque. Enfin, l'époque, c'est 69 quand il est sorti, mais moi, je l'ai écouté plusieurs années plus tard, mais c'était toujours énorme. Ce qui c'est marrant, c'est que les albums duraient à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on écoutait... moi, j'écoutais dans les années 70, les albums des Beatles, c'était presque contemporain. Aujourd'hui, un disque à 3-4 ans, ça paraît plus vieux, quoi. Il y avait moins de choses et elles duraient plus longtemps. Ils étaient encore en vente, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez marrant. Voilà, donc c'est un truc avec lequel j'ai grandi.
Oui, puis on se les passait aussi.
Mais il y avait une rareté, si tu veux. Donc effectivement, moi je les retrouve, mes disques 45 et 33 de l'époque, il y a mon nom marqué dessus.
Tu n'as pas tout perdu alors.
Ouais, j'en ai quelques-uns. J'ai retrouvé le Let It Be des Beatles avec Cuesta marqué entre les lettres blanches de Beatles, tu vois. Ça c'est le mien. Parce que quand t'allais dans une boom, t'amenais tes disques, sauf que tu te les faisais chourer la plupart du temps, parce que tout le monde les voulait. Donc c'est pour ça qu'on marquait son nom dessus, ce qui servait, bon, on se les faisait chourer quand même, mais voilà, c'était effectivement, on se les passait, on allait à les soirées avec ses propres disques, et on les écoutait ensemble, tu vois, c'était un truc, ouais, c'était rare, quoi.
On se faisait chourer ces disques, et on chourait des disques.
Alors justement, en parlant du chourer des disques, tu te souviens de l'euromarché de la porte-monitor?
Bien sûr, c'est là que j'ai volé tous mes
voilà, les premiers...
On les embrasse.
Parce qu'il n'y avait pas de vigile, il
n'y
a pas de vigile, il n'y a pas d'antivol, il fallait mettre ça sous son...
Oui, alors les 33, c'est difficile,
parce qu'ils
allaient vraiment être costaud, quoi. Les 45, c'était bon, tu les mettais contre le torse.
Moi, je faisais ça aussi dans l'ordre, c'était un prise unique à l'époque. Ouais. Alors,
Puis j'avais entendu dire qu'ils avaient, déjà mis dans leur compte 5 ou 10% de pertes pour les vols. En fait. Voilà, et ça, me disais, bon, bah, s'ils le comptent déjà, allons-y, quoi. Je veux dire, pour les statistiques.
Jack, tu voulais lire un extrait ?
Non, mais c'était ça, en fin de compte.
Je lis ?
Ouais.
En sortant de la piscine, on passe chez Euromarché, porte Molitor, le premier hypermarché du coin. Les disques sont près de l'entrée. Ça commence bien. Pas de vigile ni d'antivol, c'est encore l'âge d'or du vol à l'étalage. Les 33 tours sont trop grands, comme tu disais, quoi qu'on en prenne parfois en hiver sous nos grands manteaux. Ce jour-là, on choisit juste quelques 45 tours, collés directement contre la poitrine, à même la peau, sous nos pulls en acrylique. Je prends Let It Be, qui a dû sortir il y a plusieurs années, mais qui est toujours en rayon. Je ne sais pas que je vis une époque bénie. Hervé est plus frivole, il prend un T-Rex. À propos des Beatles, d'ailleurs, donc tu disais qu'il y a des albums, qu'il y a aussi une anecdote assez drôle sur les Beatles, ce groupe dont on entend parler, que tu cherches absolument.
Oui, oui. C'était avant la sixième, donc je ne faisais pas d'anglais, j'y comprenais rien. Pour moi, Beatles, c'était B-I-T-O-L-S. Et je cherchais Beatles partout désespérément aux prises uniques du coin, les disques des Beatles. Il n'y en avait pas. Alors pourtant, on me disait, c'est un groupe très important. Et par contre, je voyais plein de disques des Beatles. Et donc, il m'a fallu 6 mois, 1 an de premier cours d'anglais en sixième. Pour me dire, putain, c'est les mêmes, en fait, c'est eux. Voilà. Je n'ai jamais dit à personne à l'époque, j'avais honte, quoi. quoi. C'est, ouais.
Ton prof d'anglais aurait dû t'aiguiller.
Ça m'avait fait beaucoup rire. Mais c'est vrai que du coup, pour les chourer rapidement, il vaut mieux savoir où ils sont rangés dans l'ordre alphabétique. Delphine, en parlant de découverte musicale, justement, tu
Oui, bah, alors il y a... Où est-ce que le pass... Quand tu parles du ragtime, ça m'a... Ça m'a étonné, tout simplement.
On entend d'ailleurs, c'est le titre d'une des nouvelles Entertainer.
Ouais. Oui, Entertainer. Scott Joplin. Et bien en fait, c'était à l'époque, le ragtime est revenu grâce au film L'Arnaque de Sting, effectivement, hein, qui a fait beaucoup pour. C'était un best-seller absolu, ce disque. Oui, et moi j'adorais ça, parce que j'étais pianiste en fait.
Oui, et aussi bien ça aurait pu nous échapper, c'est ce que tu dis.
C'est-à-dire, pardon.
La connaissance de.
Ah oui.
Du ragtime.
Oui, c'est grâce.
Peu de choses près.
C'est grâce au réalisateur de The Sting qui a vraiment insisté pour avoir cette musique. Et c'est une musique très, très écrite et très classique. Et en fait, moi qui faisais du piano classique et qui me désespérais de ne pas pouvoir jouer de rock, de jazz, parce que je ne comprenais pas le rapport.
C'était un peu l'instrument maudit, voilà. Quoi, le piano.
Ouais, le piano, tu disais. Pourtant, il y a des mecs qui jouent du piano ou de l'orgue dans les groupes que j'aime bien, mais je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, à quel point que je confondais la guitare et l'orgue en général. Etc. Et je me disais, mais moi, j'étais en train de jouer des. Ces petites études de Schumann, quel enfer, je vois pas le rapport. Le ragtime, c'était le truc qui a permis d'approcher le jazz parce que c'était très écrit, c'est des partitions comme du classique en fait, quoi. D'ailleurs, Scott Joplin, le compositeur The Entertainer, c'est un musicien classique. Il a aussi fait des opéras, etc. Donc voilà, ça a été
Qui est revenu sur le devant de la scène.
Grâce au film. Voilà, et ça a été un peu une libération pour moi, le ragtime.
Très bien.
Petite explication, du coup, peut-être sur... alors, je me suis perdue. Oui, non, c'est ça, que je pensais, excusez-moi. Pareil, dans la nouvelle, tu parles, donc, tu viens de le dire, là, de l'orgue.
Oui.
Tu te demandais comment certaines personnes jouaient de l'orgue de cette façon, dans des groupes que tu admirais, etc. C'est un peu comme les Beatles, hein. On a une espèce de
quiproquo. Ah, oui.
Et tu finis par découvrir...
Oui, c'était Deep Purple, l'album. C'est le premier album que j'ai eu. J'ai acheté aux Prises Uniques d'Auteuil, donc je l'ai encore
acheté.
Acheté celui-là. Aux Prises Uniques, c'était plus difficile de voler. Ouais. C'était Made in Japan, donc le gros live de l'époque.
Double
live, ouais, formidable.
Double live.
Ouais. Il y avait ce son d'orgue absolument génial.
John Lord.
Oui, John Lord, voilà. Ouais. Et moi, comme je jouais du piano, je m'identifiais aux mecs qui jouaient de l'orgue, quoi. Puis en plus, ils avaient des grandes capes avec des chapeaux. Enfin, c'était fabuleux. Voilà. Et en fait, mais j'étais tellement nul, comme j'étais nul en anglais, mais nul en musique, c'est. Je m'y mets devant ma glace, des solos d'orgue, tu vois. Bon, enfin, je fermais les portes, hein, j'avais un peu honte, mais voilà, j'étais complètement... Et je m'y mets un fameux solo d'orgue dans Highway Star, j'étais à fond, je bougeais la tête et tout. Et, tout.
Marrant, et puis, l'orgue.
Quelques années plus tard, voilà, je réécoute ce disque, parce que j'avais un peu laissé tomber, et je m'aperçois que ce que je m'y mets, en fait, c'était un solo de guitare. J'étais tellement ignorant du son de l'orgue que j'avais mélangé les deux, quoi.
Mais effectivement, c'est vrai que le son de l'orgue de John Lord... Oui. Avait une texture sonore particulière par rapport à d'autres organismes par
de
le
la
fait
saturation en fait.
Voilà, parce que lui en fait son d'habitude un orgue est reprisé par ce qu'on appelle une cabine, la fameuse cabine Leslie. Tout le contraire de John Lord qui lui au lieu de brancher son orgamonde dans une cabine Leslie, lui il branchait ça sur des stacks Marshall. Sur des gros amplis Marshall sur des 4x12. Alors évidemment ça fait pas le même son, hein. Ce n'est vraiment pas du tout de la même chose. C'est vrai qu'il y a un côté sauvage dans le son de l'orgue de John Lord. Même lui aussi, il avait un jeu très très physique. Il était très très physique, il bousculait son orgue et tout. Enfin,
on mettait de la distorsion aussi.
Oui, absolument.
Ce que faisait Keith Emerson.
Lui aussi,
il plantait des couteaux dans son orgue carrément.
J'ai vu une fois où. Alors, il devait faire le Zénith et puis il n'y avait pas eu de public. Donc, c'était le boulevard de Rochechouart, comment s'appelle la salle
L'Élysée-Montmartre.
L'Élysée-Montmartre. Et donc, on était, je sais pas, une centaine. Et donc, j'étais là à côté. Donc, il a fait le coup du poignard, mais il n'a pas percé les soufflets.
Non, bah oui.
Parce que c'était un coup. Mais je l'ai vu le faire, il a fait semblant.
Il est 15h47 sur Radio Libertaire et on écoute Television de Modern Guy.
Et oui, comme le temps passe, eh bien dépêchez-vous de rester jeune. Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Modern Guy, donc télévision, toutes mes excuses, j'étais lancé dans l'anglais, là, j'ai vu le truc, j'ai foncé. Tu voulais nous dire un mot?
Oui, juste présenter le groupe, parce qu'il est totalement inconnu, mais c'était des amis à moi de la fin des années 70, début 80, c'était un groupe parisien, dont faisait partie Jean-François Cohen, qui ensuite a fait des disques, des très beaux disques, qui est un ami à moi aussi. Mais c'était un groupe vraiment, c'était toute cette époque où il y avait Marie et les Garçons, les Stinky Toys, tous ces groupes post-punk, on va dire aujourd'hui, qui apparaissaient. À Paris, à Lyon, à Rennes, il y avait toute une scène de emblématique qui jouait au Rose Bonbon, justement, dont je parle. Alors, Bijou Star Shooter, Téléphone, c'était plus le côté rock'n'roll, qui était un peu méprisé par cette élite parisienne de la New Wave, ce qu'on appelait la New Wave à l'époque. Mais oui, c'est exactement la même époque. Voilà, eux, par exemple, étaient allés à New York se faire produire par John Cale. Donc, c'était vraiment une espèce de lien. Marie et les Garçons aussi étaient allés se faire produire à John Cale à New York. Et puis ça a été très court. Ça a été très court. Il y a eu de la dope beaucoup. C'est-à-dire, le chanteur Guillaume est mort d'une overdose, ainsi que le batteur de Taxi Girl, Pierre Wolfson. Enfin voilà, c'est une génération décimée par la drogue et qui a fait très peu de disques et qui laisse très peu de choses. Mais eux ont le temps d'enregistrer un album que j'aime toujours, donc que j'écoutais beaucoup à l'époque, évidemment. C'est juste ça que je voulais dire.
Et que tu n'as pas perdu parmi toutes les choses que
si,
tu as...
Si, je l'ai racheté, mais j'ai tout racheté, en fait.
Mais Taxi Girl, c'était...
Dans chaque nouvelle, tu perds...
Il avait un succès, là, le chercher de garçon, par
exemple. C'était après, mais oui, effectivement. Le premier s'appelait Mannequin, mais c'est de la même époque, exactement. Oui.
On arrive bientôt à la fin. Est-ce que ça te manque de chanter ou de jouer de la musique?
Non, pas du tout, parce que c'est bizarre, d'ailleurs, tout le monde me demande ça. Chez moi, j'ai tout. Un piano, des guitares, des basses, voilà. Et mais... ils prennent la poussière, mais c'est terrible, quoi. C'est une espèce de...
Mais tu touches jamais?
Jamais, jamais. C'est assez bizarre. Et je me dis toujours, bon, bah, je vais m'y remettre, je vais refaire quelque chose, etc. Et je ne fais pas. Et par contre, je suis content qu'ils soient là. Je suis bien avec les instruments autour de moi. C'est un peu comme des enfants.
Tu t'en sers pas? Non,
non. Enfin, de temps en temps, je vais gratter un accord, puis je me dis, ah merde, ça fait mal aux doigts. Parce que quand tu joues pas de guitare que pendant longtemps, en fait, t'as toute la corne qui disparaît. Et donc, j'ai l'impression d'être un débutant, un éternel débutant, quoi. Donc peut-être, je sais pas, quand je serai vraiment à la retraite, si un jour j'ai la retraite, mais je pense pas. Non, voilà. J'ai toujours des rêves, de choses comme ça, mais non, c'est un peu une maladie, enfin c'est un peu... C'est comme si t'avais arrêté la cigarette un peu, tu vois, que j'ai aussi arrêté d'ailleurs. Donc, j'ai arrêté la musique et j'essaye de pas retomber
d'accord,
dedans.
D'accord, tu es sevré en fait.
Ouais, toujours à la guerre.
Ouais. J'ai ce qu'il faut autour de moi, mais je me dis, ah non, je veux pas. C'est très bizarre ma relation avec l'instrument, oui.
Et ton boulot, certainement de critique aussi, a changé, évolué.
Oui, mais ce boulot de critique m'a sûrement poussé à ne pas refaire de la musique. C'est-à-dire que je reçois des tonnes de trucs qui sont à peu près tous affreusement mauvais pour moi. Et je me dis, il y a trop de gens qui font de la musique, il y a trop de mauvaises choses. Je ne veux pas ajouter de la mauvaise musique à de la mauvaise musique. Quoi. Voilà. Donc je suis tellement ambitieux, je voudrais tellement faire un truc formidable que je ne fais rien.
C'est dit, il y a Samuel et Morgane qui sont en train de fondre, ils sont blancs, livides.
Oui,
ils se disent, on veut partir. Larguer le petit canot de sauvetage.
Mais non, il faut des jeunes qui ne soient pas blasés comme moi pour reprendre le flambeau, justement. Ils sont là.
Mais
ils sont
là, le flambeau est là.
Merci beaucoup, Stan Cuesta. Donc, je rappelle ton livre, c'est La musique qui a gâché ma vie, un recueil de nouvelles ou un recueil de souvenirs. C'est aux éditions donc, Antidata. Et Jack, pour conclure cette interview, tu nous fais, comme d'habitude, tu as quelques questions insolites.
Eh ben, justement, on en parlait avec Stan parce que j'ai failli être son attaché de presse, tu te souviens?
Tu as été mon attaché de presse juste le temps que l'éditeur fasse faillite.
Oui, c'était chez Scali, et c'était un livre sur Édith Piaf.
Oui, L'homme à la moto.
Et qui est sorti chez Librio après.
Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient eu cette bonne idée de faire un livre par chanson où tu racontes entièrement l'histoire de la chanson. Et moi, L'homme à la moto, c'est génial parce que c'est une chanson écrite par les Berestoller, qui sont les auteurs d'Elvis Presley, de Heartbreak Hotel et autres. Et donc, j'ai interviewé Max Stoller qui passait à Paris. J'ai interviewé Nicoletta qui avait repris sur son premier 45 tours cette chanson. J'étais chez elle dans le 16e, justement à côté de chez mes parents. Ça me faisait plaisir. Voilà. Et j'ai tout tiré le fil jusqu'à Vince Taylor qui avait repris cette chanson. les rapports du rock'n'roll et d'Edith Piaf, qui a priori semblait un petit peu obscur. Voilà, c'était marrant. Mais voilà, l'éditeur, comme tu le disais, a fait faillite. Il est parti.
Bertil Scali,
ouais. Où tu es.
Non, mais il sortait, parce que je me souviens, il sortait 10 livres par semaine.
C'est ce qu'on appelle la cavalerie.
Voilà, parce qu'il avait des avances sur les livres. Ouais. Mais quand j'étais l'attaché de presse, et il y avait Victoria d'ailleurs, t'avais pas le temps de faire de la promo. Tu prenais que les.
Donc Marshall m'a appelé pour me dire, je suis ton attaché de presse pour ce livre. Je dis enchanté, super. Puis deux jours après, il n'y avait plus de livre.
Il n'y avait plus d'édition. Je ne sais pas si tu l'as gardé, c'est un collecteur.
J'en ai quelques-uns.
C'est vrai.
Je l'ai racheté au Puce dimanche dernier.
Ah ben...
Il y a une grande librairie qui s'appelle la librairie de l'Avenue, Henri Verrier.
Edith Piaf, là, le.
Ouais. Ah. Il s'avait racheté le stock. Tous les mois, j'y vais, j'en achète un ou deux, je les offre. Voilà.
Non, mais celui marqué Scali.
Oui, je l'ai, c'est celui-là, ouais. J'en ai vendu 83, j'ai regardé les statistiques.
Moi, comme il m'a arnaqué, enfin, il m'a. Tout ça, j'ai acheté tous les Scali, sauf un ou deux.
Mais non, parce qu'ils valent cher maintenant.
Ouais, ouais, c'est con.
Bah, ça devient collector.
Ouais. Mais donc je sais où les trouver maintenant.
Ouais, librairie de l'Avenue à Clignancourt. Super librairie. Vous êtes jamais allé là-bas ?
Non.
La librairie de l'Avenue, c'est tenue par un vieux monsieur qui s'appelle Henri Verrier, qui doit avoir 90 ans, qui avait monté des éditions dans les années 80. C'est tout immense, tout en bois, avec des étagères partout. Mais allez là-bas, c'est le paradis si vous aimez les livres.
Boulevard de l'Avenue.
À la librairie de l'Avenue. Je ne sais pas l'adresse exacte, mais c'est vraiment dans les puces de Clignancourt. Quoi. Mais c'est ouvert toute la semaine, hein, carrément. Ce n'est pas que le jour de puce.
Et c'est des livres qu'on trouve à 3 sous.
Oui, enfin, ils ne sont pas chers, mais des trucs épuisés,
des introuvables,
un fond magnifique. Ouais.
Ah, tiens, tu connais cette rubrique dans Libération, là, qu'est-ce que tu écoutes ?
Ouais.
Alors, par exemple, quel est le premier vinyle que tu as acheté ou volé ?
Alors, c'était un 45 tours de Johnny Hallyday qui s'appelait Fils de personne.
Ah oui, qui était une reprise
de Fortunate Son de Creedence.
Philippe Labro.
Et Philippe Labro.
C'est ça, exactement.
Et ouais.
Sachant que je ne connaissais pas mon père, Fils de personne, c'était assez formidable.
Aussi. Ouais, ouais.
Je sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas.
Et le. Tiens, par exemple, le dernier vinyle ou disque, chanson que tu as écouté en boucle.
Alors, c'est souvent lié à mon travail de critique à Rock et Folk. Ce mois-ci, j'ai chroniqué l'album de Heather Nova, qui est une chanteuse que vous connaissez peut-être, qui a une longue carrière, et je trouve ça absolument fabuleux.
Et tiens, ben, le groupe dont tu aurais aimé faire partie ?
Oh, les Beatles, c'est sûr.
Les Beatles ou les Beatles ? Lequel des deux, pour savoir ?
Tiens, elle a une chanson que vous aimeriez entendre à vos funérailles.
Ça, j'ai jamais pensé à ça. En tout cas, je sais ce que j'ai passé aux funérailles de ma mère, et c'était ça que c'était Petite Fleur de Sidney Bechet. Qui était son morceau préféré.
Et l'album ou le disque qu'il te faudrait pour survivre sur une île déserte.
Alors j'ai pensé à ça, je prendrais que des disques d'un seul mec qui, à mon avis, me suffirait, c'est Neil Young. Je sais pas pourquoi.
Ah ouais ?
Je pourrais vivre avec les chansons de Neil Young. Si tout le reste des artistes s'effondrait, qu'il n'y avait plus rien.
Sauf...
Et qu'il me restait mes disques de Neil Young, je pense que j'irai jusqu'au bout avec ça. Ouais.
Ben oui.
Donc Neil Young pour survivre sur une île déserte.
Et ton plus beau souvenir de concert ?
Ah, c'est difficile. J'en ai vu énormément et je me suis énormément ennuyé dans les concerts. J'ai beaucoup de mal avec les concerts. C'est sûrement dans un petit club, mais je suis incapable. J'ai vu Peter Gabriel sur sa première tournée solo après Genesis, bizarrement, qui n'est pas un mec que j'adorais. J'avais trouvé ça fabuleux. J'ai vu King Crimson dans les arènes du Cap d'Agde avec Roxy Music, qui était un très beau concert, ouais, aussi. Mais je sais pas, plutôt des petits trucs, des clubs. J'ai vu un mec mythique qui est mort peu de temps après, c'était Gene Clark, le chanteur des Birds, qui a joué tout seul au Dingwalls à Londres, voilà, à guitare acoustique. Je suis tombé là par hasard, je me suis dit, putain, ce mec est génial, et effectivement, il était génial. Ouais, Gene Clark, peut-être.
Et la dernière, non ?
C'est quoi ?
La chanson qui vous fait toujours pleurer.
Ah bah ça, je l'ai dit dans le livre. C'est 6 sons de Robert Wyatt l'album mythique Rock Bottom. C'est sa voix. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a un film qui sort en juin, qui est un dessin animé, qui s'appelle Rock Bottom, et qui est l'histoire de la vie de Robert Wyatt et de cet album. Et on me l'a envoyé donc pour que je le regarde en avant-première. C'est assez troublant. Et ça a été adoubé par Robert Wyatt lui-même, donc qui a vu le film, qui a participé un petit peu en critiquant certaines choses. C'est très troublant parce que c'est un album que j'ai tellement écouté qu'il a fait naître beaucoup d'images dans ma tête. Le fait de voir des images que quelqu'un a mis dessus C'est assez traumatisant et en même temps c'est très très beau. C'est un très beau film. Donc je pense qu'il n'aura pas une carrière énorme. Donc jetez-vous dessus si vous voulez.
Donc ça sort dans quelques semaines.
En juin. Ça devait sortir en avril, ça a été repoussé à juin. J'essaye de demander une interview de Robert Wyatt pour parler du film à ce moment-là. Sauf qu'il est un peu malade. Je l'ai déjà rencontré il y a quelques années et je crois que c'est
difficile. Il avait une santé fragile.
Bah, il est un peu âgé, il est paraplégique, ça fait beaucoup de choses, quoi.
Il habite à Londres, non ?
Oui, dans un bled. À la campagne.
Premier batteur de Soft Machine.
Oui.
Merci beaucoup Stan Costa. Donc la musique a gâché ma vie. Juste avant de passer au groupe punk Cold Sea, on repart en musique. Donc Toi et moi de Bill Pritchard. Hey!
Comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Bill Pritchard, Toi et moi. Il est 16h05. Stan, tu restes avec nous. Et tout de suite, je donne la parole à Vincent Turban. Vincent, tu nous parles aujourd'hui de Gwen McCrae.
Absolument. La carrière de cette fameuse chanteuse de soul. Parce que si Aretha Franklin est surnommée Queen of Soul, Gwen McCrae obtient avec les honneurs le titre honorifique de Queen of Rare Groove. Gwen McCrae, Fine fleur de la soul floridienne. Réalisation Guillaume Martel. Capable d'officier sur plusieurs registres, de la balade amoureuse au groove mid-tempo mellow en passant par le funk musclé, Gwen McRae, disparue le 21 février dernier, fut unanimement applaudie et reconnue aux quatre coins de la planète pour la qualité intrinsèque de son œuvre musicale, au point de recevoir le titre honorifique de Queen of Rare Groove. Gwen Mosley voit le jour le 21 décembre 1943, Pensacola, Floride. Dernière d'une famille de 5 enfants et élevée dans un foyer où la religion prédomine, ses influences musicales précoces puisent ses racines dans le gospel. Et à l'adolescence, la jeune fille se produit dans divers clubs locaux. 1963, Gwen fait la rencontre d'un jeune marin, George McRae, qui deviendra son mari au bout d'une semaine de relation. Désormais civil, George reforme brièvement son groupe The Jiving Jets et offre un poste de choriste à sa chère et tendre moitié. Officiant dorénavant duo, les deux chanteurs sont découverts par une autre gloire locale, Betty Wright, qui les oriente vers Tika Records, propriété de Henry Stone, futur empereur de la soul made in Florida. Nous sommes alors en 1967. Le couple travaille aussi comme choriste studio, notamment pour Swamp Dog Latimore et sur un album solo de Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones. Désormais sur Alston Records, George and Gwen sortent leur premier single en 1969 et obtiennent un premier succès d'estime avec Free Heart in a Tangle en 1970. Parallèlement, Gwen se retrouve sur Columbia avec la relecture de Lead on Me empruntée à Bobby Blue Bland. Mais après 5 publications, le contrat n'est pas renouvelé et Gwen revient en Floride pour signer sur une sous-division de TK, Cat Records. Avec Your Love, une reprise parue en 1973 atteignant la 20e place des charts soul, Gwen McRae emprunte le chemin du succès avec la publication de son premier album solo, éponyme, mais le destin se charge de mettre entre parenthèses sa carrière au profit de celle de son époux. L'artiste laisse filer une énorme opportunité avec Rock Your Baby en 1974, composition écrite par Harry Winecase et Richard Fins de Casey and the Sunshine Band, finalement chantée par George. Décide à ne pas louper le coche une seconde fois, Miss McRae fait appel à Clarence Reed et Willie Clark pour lui écrire un hit sur mesure. Mission incomplète, Rocking Chair 1975, qui atterrit dans les charts soul et pop à la première place, récompensé par un disque d'or et plus d'un million d'exemplaires écoulés. Ce disque devient le plus gros hit de sa carrière. Puis le couple se retrouve sur l'album Together en 1976, dopé par le succès du titre Winners Together en Losers Apart. En privé, le couple divorce en 1976, le succès s'étiole malgré la publication de plusieurs LP jusqu'à la fin des années 70. TK ferme ses portes au début de la décennie suivante et Gwen trouve refuge chez Atlantic où sa carrière retrouve brièvement un second souffle avec Keep the Fire Burning en 1982. Elle se retire de la scène musicale en 1984, ne retrouvant qu'épisodiquement le chemin des studios au cours des 80s et un peu dans les 90s. Mais son patrimoine musical est redécouvert par le public britannique friand de soul et de groove rare, qui va la sortir de sa retraite quelques années plus tard. Sollicité de nouveau, Gwen McRae profite pour publier quelques singles pour des labels locaux ainsi qu'un album Girlfriend's Boyfriend en 1996. La même année, elle publie aussi un album en Amérique, Psychic Hotline, paru sur Gold Wax, suivi 3 ans plus tard d'un disque produit par le vétéran Frank Ho Jensen sur sa propre structure Still Rockin'. Elle publie en 2004 un disque de gospel I'm Not Worried. La structure allemande Soul Power Organization, responsable du comeback de Lynne Collins ou Bobby Bird, prend en charge Gwen McRae et organise une tournée européenne dont un passage remarqué au nouveau casino ainsi qu'au célèbre New Morning de Paris qui débouchera sur la réalisation d'un album publié par le label français Ironfly en 2006. Let's go, hey. Gwen McRae Sing Tike, réalisé en compagnie de son ancien patron Andre Stone avec la participation de ses anciens collègues Casey, Little Beaver, Latimore et Timmy Thomas, est le dernier opus publié de son vivant. 2012, après un tour de chant londonien, une attaque cérébrale la laisse partiellement paralysée et met un terme définitif à la carrière d'une soul sister à la voix rassée, digne représentante d'un idiome musical qui me fait vibrer et frissonner depuis des décennies.
Merci beaucoup, Vincent Turban, de nous avoir parlé de... Vous connaissiez Gwen, en fait, par son petit nom maintenant qu'on la connaît bien. Stan, j'imagine que...
George McRae, surtout Rock Your Baby, ouais. C'est le morceau le plus connu, ouais.
Absolument.
Est-ce que tu peux nous parler, Vincent, du concert rapidement, qui fait un gros instant de doute pour Gwen McRae au Nouveau Casino?
Oui, en effet, parce que il y a beaucoup d'artistes qui peuvent être en proie au doute, peuvent avoir du succès, un succès d'estime ou un succès plus grand, et puis au fur et à mesure, le succès s'étiole et on est un petit peu comme oublié. Ce concert au Nouveau Casino, c'était une période de doute pour Gwen McRae, parce que tout le monde pensait que tout le monde l'avait oublié. Et ce doute fut très très vite dissipé. Non seulement ça le comble, et au premier morceau, donc un de ses succès qui s'appelle 19% of Me Is You, la salle entière a repris.
S'est mise à chanter.
Ouais,
ça, c'est un peu la consécration, je pense.
Et Gwen McRae, sous le coup de l'émotion, a fondu en larmes, quoi. Voilà. Donc, comme quoi.
Un bon moment de scène, et
on n'oublie jamais, jamais, jamais de grands noms de la soul music, comme Gwen McRae.
Et on l'écoute, pour ne pas l'oublier.
Mais absolument, avec un morceau paru en 1975, Damn Right It's Good.
Right, it's good de Gwen McRae. Merci beaucoup Vincent Turban pour cette découverte qui fout la patate. Dans un instant, messieurs Samuel et Morgan, on va parler donc avec vous de Punk, votre groupe Cold Sea, ou Cold C en français. C'est comme Télévision tout à l'heure, on peut alterner. mais entre-temps, notre voyante Mafalda, de sa voix suave, nous raconte tout sur le punk et on va être surpris.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de punk. L'étymologie latine, c'est punctum, aiguille, pointe, ce qui pique. Ce mot anglais avait entre le 16e et le 19e siècle une connotation sexuelle. Rien d'étonnant. Le mot a aussi désigné une prostituée, un bon à rien, une personne sans valeur. Par rétro-acronymie, il a été interprété comme « people under no king », des rebelles, des contestataires. Dans les années 80, le mouvement punk né aux États-Unis pour rapidement envahir l'Angleterre puis le reste du monde, désignait un mouvement anarchiste, libertaire, antifasciste et antimonarchiste. Ses adeptes, facilement repérables à leurs crêtes multicolores qui défiaient les lois de la gravité, étaient vêtus de noir, avec veste en cuir clouté, chaussures pointues et beaucoup de piercings. On retrouve les punctum. Ils se déplaçaient généralement en bande et squattaient les places des villes avec leurs gros chiens. Tout cet attirail avait pour but d'effrayer le bourgeois et de faire trembler les familles, leur famille en particulier, avec leur musique tonitruante et leur refus de travailler. Être un punk, c'est être dans la marge et choquer, provoquer. Leur devise, no future. Des nihilistes. Comme nous le savons, le mot punk s'est développé, le mouvement punk, pardon, s'est développé dans le domaine musical. Aujourd'hui, le mot est passé dans le langage courant pour désigner une personne qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Hier soir, j'ai vu le documentaire « L'énigme Velázquez » et je me suis demandé si on pouvait dire de ce peintre qu'il avait eu une punk attitude à portraiturer des rois avec leur sale gueule et ce fameux tableau du pape Innocent X, lequel, en voyant son portrait, avait dit à Velázquez « Troppo vero, troppo vero ». Ce portrait du pape a ensuite été repris par Francis Bacon. Francis Bacon, le peintre, qui lui a fait un visage déformé, hideux, monstrueux, très punk. J'en conclus que Bacon, le peintre le plus punk du XXe siècle, avait bien vu que Velázquez, lui aussi, était, malgré les apparences, très punk. Pour preuve, son tableau des Ménines, où le couple royal était relégué au fin fond du tableau, dans un miroir flouté où on les distingue à peine. Et je me dis, dans le fond, on est tous un peu que bon, non ?
Merci beaucoup Mafalda et on t'embrasse donc pour cette petite définition. People under no king, antifasciste, libertaire, Colsi, bienvenue à Radio Libertaire.
Merci.
Il est 16h18 et vous êtes à bord de notre paquebot Dépêchez-vous de rester jeune. Formé à Paris entre quelques grivoiseries et quelques cafés, Colsi est un groupe de garage punk bien débile. Comme on les aime, guitare claquante, batterie puissante, le quatuor délivre un rock qui tâche, un punk collant, un garage direct à se coller de toute urgence dans les oreilles. Bienvenue Samuel et Morgane. Qui êtes-vous ? Vous êtes donc quatre.
Dans c'est ce ça, oui. On est quatre, nous deux, et puis nos comparses Gabriel et Robin qui sont pas là avec nous aujourd'hui, qu'on bon, embrasse salut. Très fort.
comment vous avez... Alors déjà ce nom, Colsi, avec deux petites astérisques. J'ai pensé à Cold Cut. Je sais pas si c'est, je suis un peu charcuterie froide. Une lettre de différence, quelqu'un a une idée ? Non ?
C'est pas
mieux.
Ouais, c'est une belle grivoiserie.
C'est une belle grivoiserie. Très bien, alors on garde le mystère ressenti. Alors déjà, comment vous avez commencé ? Comment vous êtes rencontrés, tous les quatre ?
Il se trouve que tous les quatre, on a été étudiants à... On a fait des études de métier du son, et c'est là qu'on s'est rencontrés, il y a à peu près, septembre 2021 du coup. Et puis on s'est bien entendu, on a commencé à faire de la musique tous ensemble.
Et c'est comme ça que c'est parti.
C'est comme ça que c'est parti. Ouais.
Si quelqu'un finit ingénieur, vous avez la petite technique de la veste sur la chaise qu'il ne faut surtout pas oublier. Si jamais la musique gâche votre vie, on ne la gâche pas. D'accord, donc ça a accroché comme ça.
Pardon.
Oui, vas-y.
Non, moi je viens pas trop de ce milieu de base. Et en fait, c'est Sam qui a fait toutes les compos du premier EP, etc. Parce qu'il y a d'autres sons en fait qu'on n'a pas sortis tout de suite et c'est lui qui s'occupe de faire pas mal de compos et en fait moi je suis arrivé parce que je m'entendais déjà bien avec tous ces gens là et c'est eux qui m'ont fait connaître un peu vraiment le punk ce que c'est et de jouer avec eux.
C'est quand tu dis c'était pas trop ton univers, c'est-à-dire tu faisais de la musique mais tu faisais quelque chose
de carrément... Ouais, je faisais de la musique, je jouais de la guitare, etc. Et en fait je suis arrivé et c'est eux qui m'ont fait jouer de la guitare avec eux en fait. Et de base moi je jouais pour moi, je faisais des prods, je faisais un peu de rap, je faisais un peu de rock, choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris quand on s'est aussi rencontrés.
Donc c'est par la rencontre humaine que vous avez commencé le groupe. Vous venez de sortir justement, tu l'as mentionné, votre premier EP qui s'appelle Live au Stade de France, ouais, messieurs, chapeau. C'est sorti donc pas très longtemps, le 28 février.
Ouais.
Projet qui est parti de, que vous avez construit comment, tous les quatre?
Ouais, tous les quatre. Bah, en fait, pour la petite histoire, ça a été enregistré il y a quasiment 2 ans. Et à l'époque, on était pas encore au top sur ce qu'on a appris en cours, du coup. Et on l'a très mal fait. Et du coup, Morgane a mis beaucoup de temps à le mixer parce que ça a été vraiment pas facile.
T'as rattrapé le coup, c'est ça? C'est toi qui as sauvé le...
Ouais, j'ai pas rattrapé le coup, j'ai fait au mieux, on va dire. Et en fait, pourquoi j'ai pris aussi du temps, c'est parce que petit à petit, j'ai eu plein d'expériences qui m'ont fait à chaque fois prendre du niveau. Et je crois que ceux qui font des mix de musique, ils vont peut-être reconnaître dans ce que je dis, mais on n'est jamais satisfait d'un mix. Et il faut vraiment se forcer à le sortir parce que dans 5 ans, on trouvera toujours un truc à redire, ouais, etc. Et pour le coup, c'est vrai que l'enregistrement... C'était vraiment cool à faire parce qu'on a fait ça du coup chez Sam, chez ses grands-parents, et on avait un setup dans tous les sens. Et du coup, c'était vraiment super cool pour jouer. Par contre, pour enregistrer, on avait une batterie cassée, il n'y avait pas de timbre sur la snare, il y avait des pieds qui ne tenaient pas.
C'est punk.
Exactement.
C'est carrément punk.
C'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit à la sortie, quand j'ai donné les masters pour qu'on les sorte, je me suis dit au pire, c'est punk. C'est vraiment ça, je me suis dit, si jamais c'est pas assez bien mixé pour moi, je dirais que c'est punk.
Ce sera punk.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi live au Stade de France? Alors ça, c'est l'ironie grinçante, inhérente.
Parce qu'au final, c'est chez mes grands-parents, au fin fond des Yvelines. Mais en fait, je voulais qu'on ait un titre en français, parce que je pense que c'est on chante en anglais du coup, et je pense que c'est peut-être un regret de pas avoir écrit et chanté en français. Mais au final, je vais pas changer d'un coup et continuer. Je vais juste continuer sur cette ligne-là. Mais je pense que c'est important de rappeler d'où on vient. Et puis c'est aussi un clin d'œil à un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Johnny Mafia. C'est des gars qui viennent de Sens et aussi ils chantent en anglais et tous leurs titres d'albums sont en français. Et c'est aussi un peu ça, une sorte de petit hommage. Ouais.
Ça nous a fait rire aussi.
À la langue. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, puis, c'est bon. On sent déjà l'autodérision et puis enfin, ouais, c'était un peu décalé. C'était justement une de mes questions, pourquoi l'anglais?
Eh ben parce que moi j'ai... J'ai fait, je pense, tout mon apprentissage de la guitare et une grosse partie de ma culture musicale en écoutant des trucs, tout ce qui est Green Day, Blink-182, The Offspring, tout ce genre de groupe de punk un peu californien, un peu 90s. Et puis donc, c'est un truc qui m'est venu tout seul de composer, d'écrire en anglais, quoi. Et puis, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai découvert ce qui se faisait en France, dans le rock et dans le punk actuellement, il y a très peu de temps. Je pense que c'est début 2022. J'avais des références plutôt anglophones, ouais. Et donc, et ouais, en fait, j'ai découvert qu'il y a plein de groupes vraiment géniaux qui jouent en ce moment, qui sortent des trucs. Et c'est aussi ça qui m'a fait un peu me dire, en fait, c'est possible d'avoir un groupe de rock quand on est français, quand on est jeune, en 2020, quoi.
Bah, il n'est pas trop tard pour... parce que là, du coup, on va écouter un titre qui est un titre anglais, ouais, qui s'appelle Freezing, donc de Colsey. Mais il n'est pas trop tard un jour pour écrire... faire un titre d'EP en anglais et puis écrire les paroles en français.
Ouais,
on écoute Freezing de Colsey. Face. Yeah, I just smile. Rising, donc morceau de Colty.
C'est musclé. Hein.
Samuel et Morgane, comment?
C'est musclé.
C'est musclé. Ouais. Ça réveille là. Quelqu'un dormait autour de la table? Quelqu'un dort dans sa voiture?
Non.
Si quelqu'un a oublié la radio allumée, c'est vrai que ça a dû faire un petit. Justement, à propos de ça, pour les incultes comme moi, garage punk, c'est. Expliquer en, c'est quoi comme spécificité ou Vincent?
Bon, en vrai,
ou...
c'est une.
Enfin, non, allez-y.
Moi, c'est une étiquette que j'ai collée vraiment très arbitrairement parce que c'est un. Je pense que le garage, ça évoque ce côté un peu crado.
Au départ, c'est des groupes américains des années 60 qui jouaient dans leur garage.
Ah ouais, carrément.
Absolument. Donc, ça a donné un style musical, mais c'est juste que c'était rugueux, amateur,
brut.
Un peu,
et
bon, exactement.
Brut. Oui, c'est très littéral, en fait. Comme,
oui, c'est vrai.
Delphine, tu voulais. T'avais une question à poser, non? Toujours non. Pardon, je t'ai lancé.
Merci.
Non, sur le garage punk, non?
C'est pas un univers que je connais énormément. C'est vrai que je vous ai regardé. C'est quand tu chantes, hein, les paroles sont
sur
pas
scène.
Toujours perceptibles. Hein.
Ouais.
Et voilà, qu'est-ce que tu vis de l'intérieur?
Je saurais pas trop dire. En vrai, je pense que c'est vrai que je me pose pas. Tant de questions, c'est peut-être aussi pour ça le choix d'écrire en anglais, c'est que...
Ça met une distance.
Quand t'es devant, ouais, ça met une sorte de distance, quand t'es devant un public francophone, c'est... On va pas forcément comprendre ce que tu dis, et les gens vont juste, s'ils aiment bien, juste apprécier la musique dans sa globalité, et ça, c'est une sorte de facilité au final, je pense,
Moi, d'écrire en anglais. Moi, je l'apprécie souvent en live.
Ouais.
Parce que justement.
C'est l'énergie que ça dégage. C'est ça, c'était la.
C'est l'énergie que ça dégage.
Ouais, carrément. Ouais.
Parce que le punk, c'est aussi. Enfin, c'est fait pour être. Il y a une sorte aussi de communion avec le public. Il y a une énergie qui circule.
Oui, c'est ça, ouais. Surtout, carrément, surtout quand on est en
présence
concert,
scénique. Hein.
C'est ça.
Et puis. Ouais. Voilà. Et puis, c'est assez marrant au final parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'EP a été enregistré il y a 2 ans. Mmh. Et du coup, moi, en le réécoutant là, je me rends compte que je sens plus du tout pareil maintenant. Et même qu'on joue plus les morceaux pareils.
Qu'est-ce qui a changé quand tu dis que tu chantes plus
Je pense déjà la différence entre être dans un contexte de studio et de scène. C'est assez différent, surtout quand nous on est habitué à des tout petits trucs, à des caves un peu à la con où on s'entend pas forcément très bien à chaque fois.
Pas du tout. Non.
Du coup, ça me force un peu à gueuler un peu plus, quoi. Et puis oui, globalement sur le point de vue musical, on s'est tous beaucoup améliorés. Et on joue tous bien mieux qu'avant.
Morgane a un doute, hein. Ouais. Quand même, il vient
non,
pas un petit
surtout,
de
surtout
tête.
Morgane, surtout Morgane, parce que...
Je reviens que de loin, mais je peux pas... Quand je vois d'autres groupes, des potes à nous, ou des gens que je vais voir, jouer, et qui jouent devant 10 personnes, ils ont un niveau de malade mental. Et du coup, ça me fait me remettre en question, parce que nous, on joue un truc tout droit, on est là pour casser nos guitares, et quand
ouais,
je casse
forcément.
Nos guitares, ça fait un peu has-been de dire un truc comme ça, mais je casse littéralement mes cordes quand je joue, parce que je fais pas attention à comment je joue, quoi. Et c'est drôle, et c'est parce que j'ai une guitare un peu pourrie. Ça fait partie de la
scène. Casse, du coup.
C'est ça.
Vous avez
à laquelle
fait
qui tient
à laquelle tient,
oui. Vous avez fait quand même des salles importantes,
ouais, pour
Sonic
la...
à Paris, par
ouais.
exemple. Donc c'est, là, il faut y aller. Enfin, c'est pas 10 personnes.
Ouais.
Faut quand même,
ah, c'est sûr, ouais, c'était.
C'était chaud.
Ouais, c'était assez sympa comme expérience. C'était pour une fois qu'on joue pas dans une cave. Mm. Et ouais, il y avait plein de monde, tout ça. En plus, ils nous ont mis sur une belle soirée avec un groupe qui a amené du public, donc c'était cool. Et puis, ouais, les salles de Paris, ouais, on a fait la Pointe Lafayette, l'International.
On vous retrouve à la Pointe Lafayette d'ailleurs
le 9 mai.
On se donne rendez-vous là-bas. C'est marrant parce que c'est la deuxième fois qu'on avait reçu aussi un groupe qui s'appelle Télépagaille.
Oui,
que vous connaissez. et à chaque fois qu'on reçoit des punks qui sont hyper tranquilles, vous êtes très calmes, vous êtes très doux, vous avez des petites voix, il y a un truc hyper posé. Puis d'un coup, on dit on va vous écouter. Et ça arrache. Par rapport, je reviens sur l'écriture des paroles et le fait d'écrire en anglais. Il y a aussi quelque chose qui est assez inhérent. Vous le dites d'ailleurs dans votre présentation, bien débile, qu'un groupe punk bien débile. Les paroles dans l'histoire du punk aussi, c'est une histoire de l'écriture. Mmh. C'est souvent des sujets un peu quotidiens, c'est un peu...
Ouais.
Pas superficiel, mais c'est léger, c'est un peu délirant, c'est décalé, c'est pas du tout des textes très... Il n'y a pas de grandes idées derrière, quoi. C'est assez immédiat et c'est assez impactant. En anglais cette fois-ci, mais comment tu écris? Qu'est-ce qui te... Tu pars de quoi quand tu dois écrire une...
C'est... Vous écrivez, très bonne question, tout seul, vraiment. Vous écrivez à j'écris tout, enfin tous les morceaux qui sont sur l'EP là, c'est des trucs que j'ai écrits tout seul. Même les autres qu'on joue en live au final, je crois, oui.
Ouais, c'est ça. Ouais. Tu l'as tous écrit, mais c'est vrai que moi, quand je vois les, quand je lis les paroles, en fait, je me rends compte que c'est des discussions qu'on a eues, justement. Et par exemple, le freezing, en fait, on a froid. On est à Paris, on se gèle. En plus, moi, je viens pas de Paris de base, je viens de Marseille. Donc, forcément.
Extrêmement froid pour lui.
C'est ça. Extrêmement froid. Et du coup, comme on était au quotidien ensemble pendant 2-3 ans, on avait toutes ces discussions. Et à chaque fois que je l'entendais chanter ou écrire, ou que je regardais ce qu'il écrivait, c'est vrai que c'est des choses un peu, si je peux me permettre, tu me dis, mais de ton quotidien.
Ouais, assez, c'est plus assez ou moins quotidien, en fait. C'est vrai que.
À quel moment tu te dis dans quelque chose qui t'arrive justement dans le quotidien, tiens, ça va être une chanson, puis ça non. Ça devient un peu comme ça, t'as des paroles qui viennent peut-être.
Je suis plus du genre à composer avant d'écrire.
Ok.
C'est-à-dire que j'ai des maquettes et je me dis, putain, qu'est-ce que je pourrais écrire là-dessus. Et puis il m'arrive un petit truc un peu à la con, et puis je me dis, je vais parler de ça. Et puis c'est comme ça que je fais souvent, je pense.
Bah, on va écouter un deuxième titre, donc toujours du groupe Colty, qui s'appelle When I See You. Tu nous expliqueras après ta source, quelle est ta source d'inspiration pour ce morceau. On l'écoute. De Colty, morceau assez court d'ailleurs par rapport au premier qu'on a écouté.
Ouais, c'est le plus court qu'on a, je crois.
Donc là, source d'inspiration
C'est assez. Ça s'explique tout seul au final. Enfin, c'est un peu un truc en deux parties où au début j'explique que je vois quelqu'un et tu le dis, c'est peut-être un peu un sentiment, un peu une sorte de coup de foudre, tout ça. Et pour avoir juste avant le refrain I fucking hate you. Et c'est un truc qui m'a fait rire juste de raconter ça. Et puis
une fausse histoire d'amour qui termine en haine totale.
Vous êtes de quelle influence vous venez?
De quelle influence? C'est en vrai, donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai écouté beaucoup de groupes de punk californiens, tout ce qui est Green Day, tout ça. Et puis en fait j'ai commencé la période où on a commencé à faire de la musique ensemble et où j'ai commencé à écrire les morceaux qu'on entend là. Donc c'était début 2022 et c'est là que j'ai découvert en fait tout ce qui se fait en France actuellement. Et je pense que ce morceau-là plus précisément, par exemple, c'est le premier que j'ai écrit de l'EP. Et à l'époque j'écoutais énormément un groupe qui s'appelle We Hate You Please Die.
J'adore.
Voilà, ça reste dans le thème.
C'est toujours
au final.
Sympathique. C'est...
Et
sans ambiguïté.
Et c'est un groupe de Rouen.
Ouais, ils sont super.
Ouais, et
tu les connais
Oui, j'ai interviewé Mannequin, moi, qui sont leurs potes.
Ah oui, Mannequins, ouais.
Qui sont super, vraiment bien. Mannequins, ouais.
Et oui, c'est un groupe de Rouen qui a cette. En fait, oui, du coup, c'est la compo que j'ai fait d'abord et qui ont ce truc avec des guitares bien saturées, et des petits chœurs dans le fond et tout ça. Et ça m'avait vachement inspiré, en fait. J'ai juste voulu en faire un morceau un peu comme eux, quoi. Et au final. Je pense que c'est un peu un mélange de plein de trucs aussi. J'écoutais beaucoup à cette époque-là un groupe qui s'appelle Idols, qui est un groupe anglais de tout ce que les gens appellent le post-Brexit, post-punk. Donc des groupes de punk d'après 2016 qui sont vachement engagés, assez percutants, tout ça.
Engagés, et je pense que du coup qui ont
des positions politiques très à gauche. Bien qu'aujourd'hui ils disent que leur musique n'a jamais été politique, mais ça c'est des trucs.
On n'y croit pas.
D'autres discussions, ouais, voilà, on peut pas y croire quand on écoute les premiers albums. Mais ouais, c'est un mélange de plein de petits trucs comme ça qui m'influence musicalement. Et puis comme moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, j'aime beaucoup découvrir des trucs. Et donc au final il y a toujours plein de trucs qui se rajoutent au fur et à mesure sur les compos, quoi.
Des couches différentes.
En live aussi, vous sillonnez pas mal les festivals, les scènes
musicales. Moi je vais voir beaucoup de concerts, je traîne beaucoup dans les petites salles de Paris, la Pointe Lafayette dont on parlait tout à l'heure, l'international. J'ai été beaucoup à l'international. Et je trouve que c'est important, je pense, en tant que groupe, en tant que petit groupe surtout, de se balader dans ce genre de scène, de voir ce qui se passe, de rencontrer des gens, parce que bah, je pense que justement, sans certaines rencontres, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est il y a 3 ans à peu près que j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui des super potes à nous, un groupe qui s'appelle Spaghetti Sluts, qui commence un peu à faire leur petit trou en ce moment. Et en fait, c'est eux qui nous ont fait jouer notre premier concert. Et je pense que sans eux, on n'en serait pas forcément là aujourd'hui. Et puis ouais, c'est toujours bien de rencontrer des gens, de faire des trucs, d'organiser des co-plateaux, des soirées ensemble et tout. Et c'est une scène, surtout à Paris, qui doit continuer de vivre et qui ne doit pas s'arrêter, quoi. Et je pense que c'est malheureusement un problème qu'on commence à avoir, du coup, avec l'international, qu'on a des gros problèmes en ce moment. Ils ont dû fermer il y a à peu près un an.
J'allais vous demander si vous vouliez en parler, parce que avec l'annonce de la sortie de l'EP. Et puis il y a aussi, donc, je parlais d'un autre groupe, Télépagaï, qui joue là-bas, et ils ont je voulais en dire un mot.
Il y a un an, ils ont décelé des problèmes dans la structure. En fait, c'est un bar avec la cave en dessous qui sert de salle de concert. Et donc, il y a des gros problèmes de structure et ça rend le truc totalement inutilisable. C'est vraiment dangereux, quoi. Et en fait, ils ont fait des demandes d'aide auprès de la ville de Paris, auprès du Centre National de la Musique, qui ont été refusées. Parce que c'est une salle qui n'est pas assez professionnalisante. Mais c'est là tout le but de la salle, c'est de faire jouer les petits groupes. Et puis c'est des gens, c'est une équipe absolument adorable.
Pas assez professionnel. Ça veut dire qu'en fait, comme il y a. C'est...
En fait, ça fait jouer. Ils font jouer beaucoup de groupes amateurs. Et donc,
c'est
ils
pas
ont
assez
pas...
rentable, c'est ça. C'est pas assez gros pour être.
C'est pas assez pro. Ils ont pas tous les trucs d'accompagnement qu'on peut retrouver dans des SMAC ou des trucs comme ça. Et c'est un peu bête de les laisser couler parce que ça. Si on les laisse couler, ils auront jamais ce niveau-là de scène un peu nationale. Et puis. C'est une scène qui est, surtout l'Inter, c'est une salle qui est hyper importante, c'est parce que c'est souvent la première scène de beaucoup de groupes comme nous, de groupes parisiens. C'est la première scène parisienne de beaucoup de groupes français, et c'est aussi la première scène française de beaucoup de groupes internationaux. Ils font jouer, ils font venir des groupes d'Australie, des trucs comme ça. Nous, on a eu la chance de jouer une soirée organisée par l'International avec un groupe qui s'appelle Drunk Mums, qui est un groupe australien de garage rock... et qui sont vraiment géniaux, et puis c'est vraiment des pointures en Australie, et c'est le genre de groupe qui n'est pas assez connu ici en Europe, je trouve. Et faut pas que ça ferme, mais c'est tellement important d'avoir des salles comme ça.
C'est une chance, hein. de pouvoir recevoir groupes aussi qui viennent de si loin, et d'avoir des scènes où se produire en tant que jeunes artistes. Stan, je sais pas si tu avais une opinion, je voyais hocher sur les petites salles comme ça.
Je pense que la mairie de Paris n'aime pas spécialement le punk, par exemple.
Bah oui, c'est ça.
Ce genre de musique, quoi. C'est juste
beaucoup
ça.
De problèmes de voisinage aussi. Je sais que c'est la mécanique ondulatoire qui a beaucoup de problèmes récemment. Ouais. Pourtant, ils ont fait, je crois, l'année dernière, 2 fois des travaux d'insonorisation, tout ça. Ils ont toujours des emmerdes. Et donc, ils font jouer des groupes moins virulents.
Aussi,
ils font jouer plus tôt, ils font terminer plus tôt. Ouais. Et du coup, ouais, ça devient un peu embêtant si on peut plus, s'il y a plus d'autres endroits pour jouer de la musique à Paris, il reste.
Ouais, non, c'est marrant, ça a souvent été un problème parisien parce que tu parlais de Rouen. Il y a une scène incroyable à Rouen parce qu'il y a ces deux groupes dont on citait, mais il y en a plein d'autres. Et ils ont des super endroits où jouer, des cafés où ils se retrouvent, qui sont des cafés rock, etc. Moi, je les ai rencontrés là-bas. Et à Paris, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça, quoi. Il n'y a pas c'est souvent en province, c'est la Bretagne, par exemple, a beaucoup de lieux où jouer. Tous les groupes rêvent d'aller jouer en Bretagne.
Ouais,
en fait.
C'est sûr. Ouais.
On se dit, pourtant, Paris,
mais regarde,
c'est
Rennes,
c'est punk,
exemple.
La Bretagne. C'est
Rennes,
pour ça
a beaucoup perdu aussi, hein.
Non, mais la Bretagne, c'est pas que le punk, c'est toutes les musiques. Il y a des cafés-concerts, en fait, des choses qui n'existent plus à Paris. Il y en a très peu, quoi. Oui, c'est bizarre.
Café-librairie-concert, maintenant.
Il y a toujours le Gibus.
Le Gibus, ouais, ça me dit quelque chose.
Ils font plus trop de groupes. C'était le temple du punk à l'époque. Maintenant, c'est de l'électro, je crois. Enfin, c'est un club, quoi.
C'est un club,
carrément.
Le Gibus, c'est devenu un club. C'est ce qui marche.
Non, c'est un peu rock. Ouais, il y a l'Inter, la Pointe, le club aussi, avec un K. Qui font beaucoup, qui ont une prog très, très musique extrême, assez métal, tout ça. Et puis, forcément, il y a l'Alimentation Générale aussi, qui ont pas mal de petits concerts un peu rock.
Et l'Olympique qui a rouvert.
L'Olympique, ouais. Ouais, ils avaient eu pas mal de problèmes.
Aussi, ouais.
Et puis après, il y a le
18e, oui. Doudouville.
Puis après, oui, forcément, il y a le Supersonic qui est un peu la scène incontournable.
Qui a deux salles maintenant.
Qui a deux salles, ouais. Ils ont le club et le Records. Mais oui, c'est vrai que les lieux commencent à fermer peu à peu, ou sinon, il faut aller un peu en banlieue. Il y a des trucs à Montreuil, il y a le Sample à Bagnolet qui est un lieu super.
C'est très chouette aussi. Ouais. Le Sample, ils font plein d'événements, ils font de la musique, mais ils font aussi des expos, ils font des événements divers.
Ah ouais, carrément, ouais. Bah, on a tous les deux fait du son là-bas sur les derniers
aussi,
mois.
Là, je fais la pub, mais quand il fait beau, c'est agréable comme endroit. Il y a beaucoup de choses qui s'y font avec
et
les
puis,
jeunes
c'est un
artistes.
Et puis, c'est un lieu super qu'on peut louer pour vraiment pas cher.
C'est ça.
En fait, ils adaptent le prix de la location au prix des billets. Donc, si tu fais ta soirée avec un billet à 10 balles, moi je sais, j'ai fait le son là-bas pour justement nos amis les Spaghetti Sluts ont sorti un album en décembre dernier. Et donc, j'ai fait le son de leur release party au Sample et ils ont loué la salle pour 20 balles, quoi. Et donc, c'est quand même un truc assez formidable de pouvoir faire ça. En plus, c'est une grosse salle. Il y a du matos qui est pas mal et tout ça.
Eh ben, amis musiciens ou artistes qui nous écoutaient, donc
le sample
à bon prix, un lieu très sympa. Nous, on a le droit de faire du bruit ici pour le moment, donc je vous propose d'écouter Dishes.
On the ground, it will make me feel good. I don't wanna do the dishes, do the dishes. I don't wanna do the dishes, do the dishes. On the ground, it will make me feel good.
Donc de Cold Sea. Je reviens un peu à vos débuts. Vous êtes tous dans les métiers du son aujourd'hui, donc c'est la voie professionnelle, on va dire.
Sauf notre batteur qui a décroché des cours.
La musique a gâché ma vie.
Qui gâche pas sa vie avec la musique. Mais oui, du coup, on est tous techniciens du son, ingé son.
Et du coup, ma question, c'était votre formation musicale. Est-ce que vous êtes autodidacte? Quels instruments vous avez? Est-ce que vous avez toujours joué de 20 instruments? Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous avez une formation classique?
Moi, j'ai commencé la guitare quand j'étais tout petit, donc au conservatoire à Montpellier. Et en gros, je jouais sur des guitares classiques et je faisais Au clair de la lune. Et après, en grandissant, je suis arrivé à Marseille et j'ai joué juste 2 ans. Donc j'ai fait genre 3 ans de conservatoire quand j'avais vraiment 4-5 ans. Donc j'ai rien retenu. J'ai fait 2 ans à Marseille.
Tu t'es mis quand même à la guitare dès le début, quoi.
Ouais, j'ai fait
4-5 ans,
ça a été
allé.
Ouais, non, mais c'était trop cool.
T'avais
moi,
déjà
j'adorais.
Une passion pour la musique.
C'est ça. Et je me rappelle juste que le solfège, je me faisais taper sur les doigts, mais littéralement, avec une règle, et que je voulais pas y retourner. Mais en même temps.
Trauma de prof de musique aussi.
Exactement.
Dans le même club des profs.
On a eu qu'un seul bon
prof.
Ouais, j'ai eu qu'un seul bon prof, pardon. C'est la formation qu'on a eue, c'est Monsieur Casabianca, Et c'est un prof de culture musicale qu'on avait du coup à l'ISTS, donc c'est une branche de son de l'ESRA, qui lui vraiment nous parlait de son et nous faisait adorer quel que soit le genre. Et on faisait du solfège avec lui, et j'ai kiffé. Donc je sais que je peux m'y remettre, mais en vrai de vrai, du coup pour vite fait finir sur les guitares, j'ai aucune formation vraiment solide. On m'a juste appris les bases et c'est grâce à ça que je peux jouer. Parce que je pense qu'au début quand on commence, il faut quand même nous montrer comment faire des accords, tout ça. Et à partir de là, je me suis remis à jouer de la guitare qu'il y a 3 ans, sérieusement, on va dire. Grâce à Sam et grâce à Colsi. Et en vrai, je sais toujours pas bien jouer, mais je sais faire un concert qui passe, quoi.
Un concert qui passe.
Mais moi, je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. C'est un peu particulier parce que en fait, mon père est musicien, donc j'ai vraiment grandi en écoutant de la musique, en voyant des gens jouer.
Tes parents aussi, enfin, t'as des musiciens dans ta famille ou ça t'a pris tout seul à 4 ans de faire de la guitare?
Non, mais c'est ma mère qui nous a mis avec mon petit frère au conservatoire et mon petit frère il faisait du piano.
À quel âge du coup le petit frère?
Il avait 2 ans et demi.
C'est vrai qu'il vient de me demander, je suis pas sûr que j'avais 4 ans, peut-être 5 ou 6 ans, mais sais que j'étais vraiment tout petit parce que je suis parti de Montpellier, j'avais 7 ans et demi.
Oui, donc
et que
avant,
je pense pas jouer de la guitare à 2 ans, quoi. Donc je sais que j'en ai fait 2 ans, 3 ans, donc mon frère il a 2 ans de moins que moi, il doit avoir 3-4 ans. En vrai, c'est hyper tôt, je sais pas s'il arrive à faire une
note. Il se faisait taper sur les doigts aussi.
J'espère pas, fait, mais on en a pas parlé.
Lui, il continue le piano.
Pas du tout, ouais, il a détesté.
Ouais, il a été
non, c'est ça.
Pardon, Samuel, du coup, toi, famille, pour le coup, background, musique.
Ouais, carrément, ouais. Et puis, mon père est guitariste, bassiste, contrebassiste. Enfin, il touche un peu à tout. Et donc, je crois que j'ai eu ma première guitare pour mes 12 ans. Ou un truc comme ça, et j'en ai pas fait. C'est-à-dire que mes parents m'ont dit...
Comme Stan, tu les as, mais tu ne les touches pas.
Qui me paierait des cours, et j'ai jamais eu le cours, et à un moment, je me suis dit, je vais apprendre tout seul. Je pense que j'avais un ami au lycée qui apprenait aussi la guitare, donc on se retrouvait à deux pour en faire ensemble, et puis moi, je suis resté dessus, parce que c'est à cette même période que j'ai commencé à écouter des musiques à guitare, comme on dit. Et ouais, du rock, les Clash, Franz Ferdinand, et puis que j'ai découvert tout ce qui est punk, Green Day, Blink-182, et c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de vraiment jouer de la guitare. Et puis c'est comme ça que j'ai appris, et puis après j'ai appris la basse aussi, et puis voilà quoi.
Et question un peu plus personnelle, mais ça rejoint un peu aussi une partie du livre de Stan Costa, pourquoi les études? C'est pour rassurer les parents, c'est parce que vous avez pas envie forcément d'être que musicien, que artiste.
On a tous les deux fait des études avant. En fait, on a tous les deux 2 diplômes au final.
Ouais.
Parce que moi j'ai fait avant cette école.
Diplômé, du coup, ouais, ça, vous dire, un côté,
avant cette école d'ingé son, j'ai fait un DUT en métier du multimédia et de l'internet.
D'accord.
Truc qui était très axé informatique, communication, tout ça, que j'ai vraiment pas aimé. Et puis j'ai eu un petit décrochage scolaire en 2020, en plus Covid, tout ça, vraiment atroce. Et en fait, je réfléchissais à une réorientation et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais faire du son, mon métier. Et que ça m'a tapé dans l'œil. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des études d'ingé son, quoi.
Pareil, mais moi, j'étais commercial en gros. En fait, j'ai fait...
Donc vous êtes reconverti, mais quand même dans une formation, on va dire, plus classique, enfin, un métier plus technique que...
C'est ça, en fait, moi je le vois comme quelque chose qui me certifie que je suis un technicien du son, et pourquoi j'ai fait... En gros, j'ai une licence de commerce avant ça, et je me suis forcé à faire la licence pendant... En gros, quand j'étais plus petit, je faisais déjà de la musique. Enfin, je veux dire au lycée, pardon. Je faisais déjà de la musique et tout. Et quand j'ai entendu parler de notre école, j'avais un peu peur de me dire « Ok, je crois que je vais faire de la musique là-bas. » Et je me suis renseigné, j'ai commencé un peu à toucher à tout au niveau du son. Et c'est là où je me suis dit « Ok, ben, un peu comme ça, je sais que ça sera un diplôme et que c'est de la technique du son. Je peux toujours faire ma musique ou quoi à côté, ça va m'aider, c'est sûr. » Mais c'est vraiment pour la technique et parce que je savais que je voulais faire de ça mon métier, quoi. Le son,
malgré tout. Donc ça reste quand même une vocation.
Ouais, carrément.
C'est pas le plan de secours.
Oui, c'est sûr. Pour moi, qui ai grandi avec mon père qui est musicien, j'ai vu beaucoup, beaucoup de concerts et aussi l'envers du décor du concert. Et c'est vraiment un truc qui me motive l'idée de ouais, partir en tournée, faire le son avec un groupe, des trucs comme ça, moi c'est ça qui m'a motivé à me diriger dans cette voie-là. Et puis au final, on découvre aussi en cours là-bas plein d'autres trucs super intéressants, de la technique du studio. On étudie aussi le son pour l'audiovisuel, tout ça. Moi, ça m'a pas tapé dans l'œil du tout, le son pour l'audiovisuel, mais on en connaît qui kiffent ça et qui le font très bien. Et non, je pense que ça réveille quand même un peu des vocations quand on arrive là-bas en s'y connaissant pas tellement. Et c'est ça qui est sympa, qui est intéressant aussi. Ouais.
Et juste avant d'écouter un dernier titre, on se disait hors antenne, vous avez pas de... Je vous demandais où était sorti votre EP, vous avez pas de label ?
Non, du tout. Alors,
choix,
totalement autoproduit, c'est parce que c'est un truc, ouais, on a enregistré ça il y a 2 ans. Donc vraiment, quand on débutait, quand on a enregistré l'EP, on avait fait un concert, et c'est tout. Et on s'est dit, on fait ça pour le kiff, quoi, pour que les gens ils puissent nous écouter, et puis je sais pas si c'est forcément le but d'avoir un label. Je pense que aussi de nos jours, comme faire de la musique et s'enregistrer et s'autoproduire, c'est à la portée de beaucoup de gens, voire de tout le monde.
Est-ce que c'est un choix, ouais, ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui font tout vraiment, ouais, tout carrément, seul, et c'est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années, donc pour vous, c'est entre les deux, quoi. C'est
oui,
un
c'est
choix,
ça. Et puis
mais
comme
si on vient vous voir, il y a moyen de...
Comme on a aussi la... Du coup, on est littéralement technicien son, donc on a aussi cette facilité, entre guillemets, de pouvoir tout faire nous-mêmes.
Peut-être de l'ego aussi, un peu.
Peut-être un peu d'ego aussi, ouais. Et puis, avoir une proposition de label ou quoi, je sais pas si ça me... Je pense que, de nos jours, c'est plus important, en tant que musicien qu'en tant que groupe, d'avoir un tourneur ou quelque chose de similaire qu'un label, en fait. Parce que c'est facile de s'autoproduire, mais c'est très difficile de tourner.
Trouver des dates. Et...
Ouais. Et voilà, quoi.
Eh bien, tourneur, venez contacter Colty et label s'abstenir. On écoute Slow Dance, donc le dernier morceau. Il est 16h55, 16e arrondissement en vue. On arrive bientôt à destination et on vient d'entendre Slow Dance, donc du groupe Colty. Et Jack, je vais poser quelques questions.
Oui, c'est la rubrique Casque t'écoute. Alors, un de vous deux, je ne sais pas. Quel est le groupe que vous auriez aimé faire partie ? dans l'absolu. Hein.
Le groupe dont j'aurais aimé faire partie.
Ouais.
Steve Richards. C'est un groupe qui est actuellement en train de jouer encore aujourd'hui. C'est des Australiens et en vrai c'est une inspi pour nous. On a déjà fait une reprise de leur morceau. Et là pour le coup, c'est pour moi c'est ce que j'appellerais vraiment du punk avec mes goûts à moi. Donc Steve Richards.
Moi je dirais en vrai, je pense Franz Ferdinand. Pour moi c'est un groupe qui a vraiment changé le paysage musical à jamais. Ou Blink-182. Parce que c'est vraiment un truc... Je pense qu'ils me touchent vraiment au fond du cœur, surtout leurs vieux morceaux. Et c'est vraiment, vraiment super bien. Quoi.
Et quel est le disque, ou le vinyle, ou le CD qu'il vous faudra pour survivre sur une île déserte?
J'aime bien cette question, c'est ma préférée, je pense.
Elle est dure, pas d'électricité.
Vous êtes deux, Mais s'il y a du truc solaire, là.
Alors, si vous avez chacun votre île déserte, je ne suis pas obligé de vous mettre d'accord.
Vous partez demain et vous amenez chacun...
Moi, j'ai un disque que vraiment j'apprécie énormément, mais c'est, je pense que c'est parce que, en tant qu'ingénieur du son, il m'impressionne. C'est le disque OK Computer de Radiohead.
Ah oui.
Que j'adore écouter, que je trouve incroyable. Et qui. Enfin, c'est. Ouais. Incroyable.
Oui.
Vincent fait oui de la tête. Ça doit être un choix.
Moi, je pense que. Je pense que je prendrais Tragic Kingdom de No Doubt. Parce que c'est vraiment un truc qui peut s'écouter dans toutes les situations, toutes les humeurs.
De la part de,
ouais.
de ton camarade.
C'est
non, pour moi, c'est vraiment pour l'éternité tout seul sur une île, autant prendre un truc.
Ouais, un truc que tu peux l'écouter quand t'es triste, quand t'es joyeux. Il y a de tout dans cet album et c'est vraiment un truc que j'adore.
Et vos plus beaux souvenirs de concert, dans l'absolu.
À part les vôtres.
À part les
nôtres. Qui étaient des moments mémorables.
Ah, c'est toujours mémorable. À chaque fois qu'on joue, on se dit, putain, c'est le meilleur concert qu'on ait jamais fait.
Ah bah voilà.
Putain, moi je dirais.
Ça comme ça.
Ah ouais, j'espère.
Chaque fois ce soir.
Moi je dirais. Je pense. L'année dernière, j'ai été voir les Hives à l'Olympia quand ils passaient.
C'est bon ça, les Hives.
Ouais.
Bien et les Suédois.
C'est vraiment,
très bon.
Vraiment fou en live. Ou sinon, je pense Idols à l'Élysée Montmartre en 2022 aussi, c'était vraiment, vraiment zinzin.
Moi je pense un des concerts des Spaghetti Sluts, parce que j'ai compris qu'ils faisaient vraiment de la bête de musique. Enfin je le savais déjà, mais je veux dire c'est là où j'ai pris une grosse claque en live de eux, c'était au Supersonic. Et Morgan, je crois qu'il était monté au balcon et tout. Si, c'était Morgan.
Ouais, Morgan le best.
Oh la solidarité, il y a le t-shirt et les pagailles, les
Spaghetti Sluts. Ouais, bah carrément.
On vient équipé.
Une dernière pour la route Non, il est 16h59, on va s'arrêter là. Merci beaucoup du coup, Samuel et Morgan d'être venus pour nous parler du groupe Colsi Astérisque. Je n'en dirai pas plus. Vous avez sorti donc votre premier EP live au Stade de France le 28 février. On peut l'écouter en ligne. Pour vous suivre, c'est sur Instagram.
Ouais.
Avoir toutes les actualités. Et on vous retrouve en concert le vendredi 9 mai à la Pointe Lafayette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Stan Costa aussi. Donc je recommande la lecture La musique a gâché ma vie. Et nous, on se retrouve le mardi 25 mars à 15h. Olivier sera de retour et nous recevrons Richard Gottener et Brice Delage et Peter Lorne. Merci à tous. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Salut.
Et malgré les insolations de temps en temps, merci Vincent.
Merci
Jacques. Et merci Nifle. Bon après-midi.